Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Alors messieurs, nous sommes de nouveau en distanciel. Et oui, nous nous plions à la loi, nous nous plions aux contraintes du Covid. Mais évidemment, grâce à vous, grâce à Patreon, nous pouvons continuer à faire ce podcast en toute sérénité. Et pour ça, je vous en remercie. Et si vous voulez faire partie des gens qui sont remerciés dans cette émission, vous pouvez donc aller sur notre page Patreon, voilà, vous créez un petit compte, mettez petite carte bleue, un petit compte PayPal, tout peut fonctionner pour donner des sous à cette émission.
Des bitcoins, allez-y.
Je sais pas, est-ce que PayPal prend les
je suis pas sûr.
Ils sont pas encore dans le turfu comme ça, mais voilà, peut-être un jour, si vous boursicotez, vous pourrez réinvestir tous vos gains dans Fin du Game. On remercie également Third Edition, la maison d'édition consacrée aux ouvrages, les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, c'est ce qu'ils font, mais pas que, voilà, vous connaissez un petit peu la rhétorique. De quoi on peut parler ? On peut parler déjà du carnet de bord de Jordan Mechner, donc le créateur de Prince of Persia, jeu dont il est question aujourd'hui. Alors, pas le premier Prince of Persia, aujourd'hui on va parler de Sands of Time, mais c'est le créateur du premier Prince of Persia, et il a bossé sur celui-ci. Ça, on en avait déjà parlé dans l'émission de ce carnet de bord, hein, donc c'est vraiment le carnet de bord, littéralement, du designer qui revient sur ses éléments de design. Toi, je crois, Benoît, que t'as commencé à le lire.
Oui, voilà, je me suis offert ça parce qu'ils ont fait une belle édition limitée avec un beau coffret, la cassette du jeu, etc. Bon, voilà, je me suis fait un petit plaisir et c'est ça, c'est vraiment c'est son journal de bord. Donc vraiment, jour après jour, dans les années 85-6, par là, il a commencé à expliquer ses idées, tu vois, toutes les galères qu'il a pu avoir au quotidien, bref. Vraiment, il explique au jour le jour la création de Prince of Persia, donc c'est vraiment très particulier comme format, c'est pas très courant, mais du coup c'est super intéressant, j'ai commencé à regarder, donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je pense que je peux vous le recommander.
Voilà, vous pouvez aller voir ce bouquin, et puis, bon, est-ce qu'il est possible qu'un livre sur la saga Prince of Persia arrive ? Bon, voilà, moi, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'est pas dans les papiers de Third. Voilà, nous, on ne dit pas grand-chose, mais...
Nous, on a un pouvoir sur le paysage vidéoludique. Est-ce qu'on a un pouvoir sur le paysage maison d'édition ?
Peut-être, en tout cas, moi, je sens qu'il y a quelque chose.
Tu sens qu'il y a des vibes. Ouais. Un petit peu du sable, comme ça, qui coule, qui est dans l'air, des choses qui brillent. Et peut-être qu'il est possible qu'un livre de cet acabit voit le jour, un jour. Mais voilà. On ne peut pas vous en dire plus. Je suis désolé, je fais ce qu'on me dit. Voilà, très bien, on a fait toute la petite routine. On va pouvoir attaquer cet épisode sur Prince of Persia, Sands of Time. Maxime va nous choisir une petite musique. Benoît a fait les recommandations, je les vois là sur le petit conducteur. Voilà, ambiance sable chaud, ambiance danse du ventre, ambiance thé à la menthe, voilà tout
l'Orient,
tout
on a fait
trucs.
Tout l'Orient littéralement, hein, d'après voilà. Le prisme des œuvres.
Ouais, voilà, tous les clichés sont là, c'est bon.
C'est bon, on a tous les clichés, et on est parfait, et on peut se lancer dans un nouvel épisode, juste après ça. Alors, Prince of Persia, The Sands of Time, Les Sables du Temps, en français et en québécois, c'est sorti en novembre 2003. Alors, ça a commencé plutôt à sortir en novembre 2003 sur PS2, Xbox, GameCube, PC, et oui, c'était l'époque où à chaque sortie de jeu, il y avait 4 jaquettes différentes avec tous les logos, ça sortait sur toutes les plateformes, hein. C'était l'époque où les éditeurs tiers, ils étaient vraiment présents sur les 3 consoles et sur le PC. Aujourd'hui, ça a quand même un petit peu changé. C'est sorti de manière un petit peu éparse, on va dire, ouais. Puisque voilà, en Europe, on n'avait pas le droit d'avoir toutes les versions au moment où elles sortaient, parce que bah voilà, c'est compliqué d'avoir des jeux GameCube directement après la sortie en Europe. Parce que,
bah oui, il y a voilà, quand même quelques mois de décalage compliqué à l'époque, hein, encore une fois. Donc bon, les sorties mondiales, c'est un peu plus récent.
La version PS2, on a été sage, apparemment. On l'a pu avoir un peu de temps après la sortie américaine. Mais pour les versions, apparemment, GameCube et je crois Xbox, bon, c'est quelques mois. Voilà.
Alors, on peut peut-être revenir un petit peu sur... pas revenir sur Ubisoft, encore une fois. C'est un éditeur qui commence à être régulier dans l'émission. Et bon, c'est normal. Mais au début des années 2000, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que jusqu'à ce moment-là, Ubisoft était surtout connu pour Rayman. Il y avait déjà Rayman 1 qui était sorti, il y avait eu Rayman 2. Mais c'était pas du tout l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Et vraiment, justement, c'est sur ces années 2002-2003 qu'il va vraiment avoir un changement stratégique pour l'éditeur. Ça commence en fait en 2002 avec Splinter Cell, qui sera vraiment une des premières grosses licences là, de cette époque qui va naître. Et ça va vraiment attaquer avec en 2003, avec, on a noté quoi, il y aura Beyond Good and Evil, il y aura 13, il y aura Rayman 3, il y aura Rainbow Six, et il y aura Prince of Persia
Rainbow
à ce moment-là.
Rainbow Six 3.
Rainbow Six 3, pardon, effectivement, et pas mal de jeux d'ailleurs qui étaient de Ubisoft Montréal, puisque c'était l'époque hein, où le Canada, c'était vraiment l'Eldorado, le Québec plutôt, l'Eldorado du jeu vidéo, et qui avait plein de boîtes qui allaient s'y implanter, qui créaient des énormes studios. Là, à l'époque, ils étaient déjà 650, hein, c'est ça qu'on a noté
ouais,
comme chiffre.
Ouais, c'est ça qu'ils disaient, donc Ubisoft Montréal, ils étaient déjà 650 à ce moment-là, et bon, il y en avait quelques-uns qui bossaient sur Prince of Persia, on y reviendra, et donc un autre élément qu'on peut donner en termes de date, c'est que c'est en 2001 que Ubisoft a créé son fameux département ligne éditoriale, qui a fait parler de lui il y a peu de temps. Donc pour
ouais,
des histoires
avec les affaires
de harcèlement
autour de
Mais
Serge Asquette.
Le fameux Serge Asquette, il est arrivé, il a pris en fait la direction de ça en 2001. C'était un ancien d'Ubisoft, lui, parce qu'il bossait déjà à l'époque avec Michel Ancel sur Rayman, dans les années 90. Et donc, on sent en fait que vraiment, début 2000, il y a toute une impulsion au niveau d'Ubisoft qui est en train de vraiment de devenir l'énorme éditeur qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, hasard du calendrier ou pas, d'ailleurs, hein, parce que ça montre bien aussi leur volonté. Ils ont changé leur logo. On est passé de l'arc-en-ciel des années 90 à l'espèce de tourbillon.
La spirale qu'on a encore aujourd'hui. Ouais.
En 2003. Et à partir de là, effectivement, le studio n'a fait que grossir et mettre en place en fait cette logique de franchise, puisque du coup, même avec l'idée de Prince of Persia, c'était déjà cette idée-là qu'on a aujourd'hui. Quand il lance un jeu, il prévoit d'en lancer plusieurs derrière.
Ouais, une vraie volonté de se placer sur l'échiquier des AAA, de vraiment prendre une place prédominante sur ce marché-là. Et du coup, vraiment, Prince of Persia va s'intégrer dans cette optique-là. Ubisoft, là, l'équipe qui va travailler dessus, c'est pas une équipe qui était très expérimenté d'ailleurs, ils bossaient vraiment dans l'ancien Ubisoft, c'est-à-dire ils faisaient des jeux Disney, et puis là, ils vont pouvoir travailler sur Prince of Persia. On l'a dit tout à l'heure, hein, Prince of Persia, ça a été créé par Jordan Mechner, donc ça n'appartenait pas tout de suite à Ubisoft. C'est en 2001, c'est ça qui a eu le rachat de la boîte.
Ouais, en fait, en gros, je sais pas exactement, parce que ça doit être ce genre de rachat, c'est un peu compliqué, parce que ça devait être des boîtes qui possédaient des boîtes, etc. Bon, il se trouve que par ricochet, ils ont racheté un ancien éditeur qui s'appelait Brother Boone Software, qui faisait pas mal de jeux à l'époque de l'Amiga, de l'Amstrad et de l'Atari, et c'est eux qui avaient édité Prince of Persia, sauf que à l'époque, ça c'est quand même assez spécial pour être noté, c'était Jordan Mechner lui-même qui possédait la licence, donc l'IP Prince of Persia, et donc en fait, même si Ubisoft avait les droits d'exploitation des anciens jeux, ceux qui étaient déjà sortis, mais pour pouvoir créer un nouveau jeu, ils avaient besoin de l'aval de Jordan Mechner. Et donc, en fait, il y a eu vraiment toute une phase de discussion et de négociation.
De séduction.
Ouais, c'est pas mal ça, j'aime bien cette formule. Au début des années 2000, où Yves Guillemot et toute sa clique vont inviter Mechner pour essayer de lui présenter un peu leur vision par rapport à Prince of Persia.
Sachant que lui avait un peu quitté le monde du jeu vidéo. Hein,
oui.
Il était un petit peu sorti de cette sphère-là parce qu'il avait connu un échec assez... pas retentissant, mais il avait fait un jeu Hercule Poirot, hein, c'est ça,
The Last Express.
The Last Express, qui, voilà, qui s'était pas très très bien vendu, c'était pas très très bien passé. Et puis surtout, bah, Prince of Persia, il y avait eu un épisode 3D, Prince of Persia 3D, qui était vraiment fabriqué sur le modèle de Tomb Raider, hein, donc vraiment cette plateforme un petit peu rigide, comme pouvaient l'être les premiers épisodes de Tomb Raider. Et voilà, il était un peu
parti de la vidéo, ouais.
Et il n'était pas forcément emballé par l'idée de relancer. J'aime bien la citation, c'est oui, pourquoi pas un nouveau Prince of Persia, mais il faut que ça soit un bon Prince of Persia, pas un Prince of Persia médiocre ou un truc comme ça.
Et Ubisoft, mine de rien, ils avaient tellement entre guillemets peur ou que en fait ils n'étaient pas convaincus par le prototype qu'ils avaient qui était prêt. Et à la fin, quelques semaines avant que Mechner arrive à Montréal, parce qu'il était déjà allé à Paris, il était déjà allé à l'E3, et la dernière étape, c'était qu'il voit le prototype, bah finalement, le producteur du jeu, donc Yanis Mala, se dit « Non, le proto, il est pas terrible, donc en fait, il change de team, il y avait je crois un peu moins de 10 personnes qui bossaient dessus, mais là il en prend 6 en tout cas, et qui n'auront pas le temps de faire un proto, mais qui va trouver déjà une direction pour le jeu, qui va se dire bon, finalement on va faire un truc un peu plus ninja entre guillemets, plus acrobatique, se reposer notamment sur Tigre et Dragon, voilà, en termes d'inspiration, et quelqu'un aura le temps de faire les animations en fait du prince et de montrer des vidéos. Finalement Mechner, il n'aura pas du tout un prototype, c'est quand même important de le souligner, il n'y aura pas de game feel ou quoi, il va juste voir des vidéos d'animation, il va le voir courir à la verticale sur le mur, et c'est ça qui finira par le convaincre.
Ouais, c'est ça qui va vraiment le séduire dans la nouvelle proposition, ce truc acrobatique, courir sur les murs. En plus, ce qui sera vraiment d'ailleurs pour moi la feature différenciante, enfin tu sais, un des selling points, comme on dit, du jeu par la suite. Moi, je me souviens à l'époque, quand je vois courir sur les murs, je fais waouh, trop stylé. Et du coup, c'est vraiment ça qui a convaincu Jordan Mechner. Et du coup, bah, Ubisoft se lance vraiment, enfin, cette petite équipe-là va se lancer vraiment du coup dans le prototypage. Ils vont commencer à bosser dessus, à travailler, à imaginer le côté, le level design, bref, travailler le prototype, et ce prototype va être présenté en interne, et là ça va vraiment convaincre tout le monde chez Ubisoft, hein. Il y a vraiment tout le board, les suits, comme ils disent en anglais, hein, c'est-à-dire les mecs en costard qu'il faut convaincre pour avoir le feu vert pour lancer le jeu, et ils vont vraiment tous être convaincus, à tel point que voilà, la direction va dire ok, vous passez tout de suite en full triple A, je veux tout le monde sur ce truc-là, enfin tu sais, tu sens qu'il y avait vraiment le flair pour se dire ok, ça c'est vraiment bien.
Parce qu'il n'y avait pas que le côté acrobatique, il y avait eu aussi du coup le fameux Rewind, qui était déjà présenté, qui arrivait finalement assez vite, était qu'en fait ils cherchaient un élément différenciant, ce qu'ils disaient, bon ok, acrobatique, les animations c'est bien, mais il nous manque encore un petit quelque chose, et bah, c'est donc le directeur créatif, donc Patrice Désilets, un nom que vous connaissez, on pourra reparler un petit peu de sa carrière après, mais qui est connu pour avoir créé Assassin's Creed, mais Patrice Désilets du coup lui a proposé la mécanique du Rewind, une idée qu'il avait déjà eue en fait pour un jeu Donald avant, et qui avait été refusé parce que...
Par Yanis, hein, c'est Yanis Mala qui avait dit ouais non, et du coup il a réussi à le convaincre là pour Prince of Persia de l'utiliser, d'utiliser cette mécanique-là.
On pourra le redire, mais c'est assez drôle parce que toute cette idée de remonter dans le temps, de sable, etc., ça colle parfaitement en fait avec l'univers de Prince of Persia, puisque bon, bah, le jeu original, si vous ne l'avez pas fait, en fait, c'est un jeu qui se déroule sur une heure en temps réel. Vous avez un petit sablier qui se lance au début, où on voit la cinématique avec la princesse, et vous avez une heure pour aller la sauver. Donc, en fait, il y avait déjà ce genre de petits éléments de lore qui collaient, et du coup, on pourra le dire, Jordan Mechner a d'ailleurs bossé un petit peu sur l'histoire de Sands of Time, puisqu'il a rejoint en partie l'équipe pour les aider et bosser justement un petit peu sur cette direction, on va dire, narrative.
Ouais, c'est lui qui a vraiment pris cette idée de Rewind et qui l'a transformé donc avec ses idées de sable du temps et d'utiliser vraiment le sable comme une sorte de ressource qui permettrait de manipuler le temps, et c'est comme ça qu'ils ont pu vraiment formaliser toute cette histoire aussi avec la fameuse princesse Farah qui... Ouais, c'est vraiment une princesse ? Oui, c'est vraiment une princesse.
Oui,
oui, c'est vraiment une princesse.
Je crois.
C'est officiellement une princesse.
C'est Maharaja local qu'ils ont...
c'est possible.
Qu'ils ont pillé au passage.
On reviendra pour l'histoire. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de dire que Mechner, à la base, c'était pas prévu qu'il bosse plus que ça sur le projet, mais en fait, lui aussi, quand il a vu le proto, ça lui a vraiment donné envie, finalement, d'écrire toute cette histoire.
La direction artistique qui est arrivée un peu tard sur le projet, je me souviens, je lisais le post-mortem là, de Yanis, qui expliquait justement qu'ils ont beaucoup travaillé sur le prototypage, et c'est après en fait que la direction artistique est arrivée, qu'ils ont vraiment commencé à partir dans ce truc voilà, très orientaliste, comme on le voit vraiment en Europe, hein, c'est vraiment l'Orient vu de l'Europe avec voilà, le sable, les dagues, les tenues, les petits voiles comme ça, tous ces trucs-là, comme on peut le voir en Europe, qui sont très clichés, hein. Je pense qu'on reviendra d'ailleurs dessus, le jeu utilise quand même pas mal de clichés dans sa narration, mais en tout cas, ils travaillent là-dessus, ils font un vrai travail sur les couleurs, les ruines, il y a vraiment ce côté un peu mille et une nuits, ce rêve bleu, des choses comme ça qu'on retrouve dans la direction artistique du jeu, et je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça c'est un des points ils ont fait des bons choix quand même, je trouve, dans l'ensemble, dans la colorimétrie, c'est esthétiquement, c'est quand même très réussi, je trouve.
Ouais, ça fonctionne toujours. Faut aussi rappeler qu'à l'époque, il y a eu le film La Momie qui est sorti un peu avant. Et en refaisant le jeu là pour l'épisode, je me suis rendu compte à quel point ils ont dû voir le film avec Brendan Fraser et ils ont retrouvé un peu, parce que même le perso, il a un peu la même coupe de cheveux. On retrouve un petit peu ce côté un peu humour, un peu van. Il y a pas mal d'éléments dans l'animation et le côté un peu fantastique des monstres de sable qui rappellent pas mal le film La Momie. Donc il y a toutes ces inspirations qui se sont mélangées et qui ont donné comme ça du coup naissance à cet univers des sables du temps.
Et pour continuer un petit peu sur les inspirations, la team a joué à Ico. Parce que c'était Patrice Désilets qui l'a dit, on en parlera peut-être quelques fois, mais il était à Double Fine, ils ont joué pendant une heure à Prince of Persia et Sable du Temps, ils discutent un petit peu, et il dit que la team, la pop team, pop pour Prince of Persia, a joué à Ico, alors pendant que le jeu était en développement, et ils s'en sont inspirés pour alors probablement la relation entre Pharah et le prince, mais aussi la notion que ça se passe dans un seul lieu, qui est assez cohérent d'un point de vue architectural, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir le niveau des cavernes, le niveau de la forêt, le niveau dans les forêts enneigées, non, ça se passe vraiment dans un seul endroit.
Puis c'est intéressant parce que c'est un juste retour des choses puisque Ico c'est vraiment un descendant de Prince of Persia et là du coup que ça reboucle comme ça dans les sens, c'est assez rigolo voir comment les lignées se font. Et puis le jeu avance très bien, les combats qui sont un peu inspirés de la capoeira kung fu, il y a quelqu'un qui fait du kung fu dans l'équipe, hein, c'est très important de le spécifier.
Il a un katana chez lui.
Voilà, c'est vrai, on en rigolait là tout à l'heure dans la préparation, ça revient en fait souvent ce motif de director qui font des arts martiaux. Je sais que par exemple c'est Emric Toa qui fait des arts martiaux, qui est le directeur de Game Makers, il me semble qu'il fait ça. Je parlais aussi de Hugo Martin qui est le directeur de Doom Eternal, qui lui fait du jujitsu. Bref, les directeurs souvent font des sports de combat comme ça, et peut-être même qu'au sein de cette équipe des gens ont fait des sports de combat.
C'est possible,
c'est peut-être une sorte de taekwondo, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que le jeu avance très très bien, à tel point que à l'E3 2003, qui se déroulait à l'époque en mai, on a vérifié les dates car oui, c'est une émission où nous faisons énormément de travail de recherche, c'est un gros carton à l'E3, c'est vraiment le jeu qui explose. Alors fun fact, il y a une anecdote que j'ai trouvé très 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 drôle pour l'équipe en fait.
Enfin, très 2003,
où en fait l'équipe interne, savait qu'elle bossait sur un projet qui était important pour Ubisoft, et c'est en arrivant à l'E3, en voyant qu'il y avait des babes à l'effigie de Prince of Persia, qui se sont dit « Ah ok, c'est du sérieux, en fait, ils vont mettre la moula sur nous, tu vois, on a la thune, on a le soutien du marketing, c'est parce qu'il y avait des babes à l'E3, et c'est à ce moment-là qu'ils réalisent à quel point c'est sérieux. » Donc je trouve que c'est une anecdote qui est assez révélatrice de cette époque, voilà, ton jeu, il était important si t'avais des babes, bienvenue en 2003.
Ce qu'il faut savoir, c'est que donc un des articles sur lesquels on s'est pas mal appuyé aussi pour nos recherches, c'était donc The Last Hours de Geoff Keighley, à l'époque où il était encore journaliste, où en fait il explique aussi que l'équipe de Montréal, ils sont vraiment très très jeunes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a 31 ans, mais tous les autres, ils ont entre 20 et 23, 24 ans, pas plus. Donc on est encore sur une équipe vraiment très très jeune, et c'est vraiment l'époque où les devs de jeux vidéo, c'est des... Je vais pas dire que c'est des ados, mais c'est des très jeunes adultes, on va dire.
Ouais. Tous des jeunes hommes, ambiance un peu comme ça, fratrie. C'est vraiment comme ça que ce jeu vidéo. Bref, je trouvais cette anecdote marrante parce que je trouve qu'elle est très révélatrice de l'époque. Mais c'est un gros carton. C'est le jeu de l'E3. Hein, vous savez, meilleur jeu de l'E3, élu par la presse, et ces choses comme ça qui sont toujours assez rigolotes. Et ils prennent une petite semaine de vacances après l'E3 pour célébrer, profiter. lycée. Et après, par contre, dès qu'ils rentrent à la maison, le boss, je crois que c'est Yanis qui leur dit « C'est bien, on a une démo, mais on n'a pas un jeu. » Et là, il va falloir vraiment cruncher pour faire le jeu. Et ça va vraiment être 6 mois de crunch intensif pour sortir le jeu. Parce que voilà, à la direction, s'il n'y a pas de délai possible, il faut que ça sorte avant Noël.
Ouais, ils savaient que ça devait sortir en novembre, mais ils espéraient quand même qu'ils... Parce qu'ils avaient quand même un petit peu conscience du chantier. Après, l'article sous-entend quand même... Enfin, non, il y en a un. C'est peut-être Yanis Mala qui dit que justement, comme la team n'est pas hyper... a pas énormément d'expérience, a aussi un petit peu de mal à se projeter dans l'avenir. Mais en tout cas, d'ici novembre, voilà, ils espéraient pouvoir négocier une date un petit peu plus tardive. Mais non, clairement, on leur a dit non, c'est pour Noël ou rien, quoi.
Ouais, tu sens qu'il y avait ce leitmotiv, hein, que Mala, il essayait en fait de convaincre à un moment donné. Il se doutait qu'il risquait d'y avoir un délai. Ils avaient déjà réussi à négocier un petit peu de délai en amont de la préparation de l'E3, etc. Mais bon, pas tant que ça. Mais très rapidement, bah, ils se sont rendus compte que ça allait pas être possible, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé vraiment un énorme, grand nombre d'effectifs. Hein. Je sais plus combien ils étaient dans l'équipe en tout.
Ils étaient 50-60. 50-60, en gros, ouais.
Ouais. Donc c'est pas non plus une équipe, pour l'époque c'était une grosse équipe, 50-60 c'est quand même énorme, donc ils ont vraiment mis les moyens pour sortir le jeu, mais voilà, le mois de novembre c'était la deadline, donc bah, ils ont forcément coupé une partie du contenu, ils estiment à 15-20% la quantité de contenu qu'ils n'ont pas mis dans le jeu final, parce qu'il y avait pas mal d'éléments qu'on a appris par la suite qui étaient prévus, qu'ils n'ont pas mis. Ils avaient pensé à faire de la course de cheval à un moment donné, ils avaient pensé à un ennemi récurrent qu'on retrouvera plutôt dans le deuxième épisode de
la trilogie. Un griffon, hein.
Ouais, avec le griffon. Qu'on pourrait combattre à plusieurs reprises tout au long du jeu. Enfin bref, il y a pas mal de petits éléments comme ça qu'ils ont virés. Et finalement, bah, en fait, après une death march, hein, comme ça se dit
ouais,
dans l'entreprise.
Ouais, une marche de la
mort. Mechner le dit, ouais, je crois.
T'as une photo dans l'article de Geoff Keighley où c'est justement Yanis Mala qui, ça fait 48 heures qu'il n'a pas dormi. Ouais. Et donc tu le vois avec les yeux complètement éclatés à quelques semaines du rendu final du jeu. Donc voilà, bonne ambiance.
Ce qui est intéressant quand même, je trouve, c'est que quand on lit, parce que cet article-là qu'on lit, hein, il est vraiment sorti en 2004, donc du coup, il n'y a pas du tout le regard qu'on a aujourd'hui très critique, hein, sur la pratique du crunch. Là, c'est vraiment genre, bah oui, voilà, ils ont fait la death march, ils sont un peu fatigués, mais voilà, c'est comme ça que c'est fait. Il n'y a pas, voilà, il y a pas du tout de questionnement là-dedans, de remise en cause. Alors, on comprend déjà les fondements des problèmes, tu vois, c'est les délais imposés par l'éditeur, le fait que, voilà, ils n'avaient pas forcément, ils ont dû beaucoup travaillé pour une démo, pour le 3, pour vraiment créer une vertical slice, hein, pour pouvoir montrer aux gens. Et du coup, bah voilà, tous ces petits problèmes-là qui vont se accumuler. Là, ça a été que 6 mois de crunch. Vous le voyez pas, mais je mets des guillemets, parce que maintenant, les projets, c'est vrai que là, c'est 2 ans de développement, hein, puisque ça a commencé en 2001. Mmh. Aujourd'hui, maintenant, c'est 5, 6, 7 ans parfois de développement, et donc des périodes de crunch qui sont d'autant plus longues. Mais voilà, c'était déjà le cas à l'époque. Et comme on le disait, bah, le jeu sort et bah, il finit de convaincre tout le monde. On est sur un 92 sur Metacritic. La presse française est aux anges. Hein. Je crois que c'est 9 chez Gamekult, oui. 19 également chez jeuxvideo.com. Donc voilà, gros, gros carton critique.
La règle de conversion des notes Gamekult jeuxvideo.com qui se vérifie comme d'habitude.
Qui fonctionne toujours, hein, ça oui. Ne change pas évidemment. Et puis, je crois qu'on avait noté ces 2 millions d'exemplaires vendus à la fin de 2003. Donc vraiment quelques mois, hein. C'est un mois, en un mois et demi, le jeu se vend déjà 2 millions d'exemplaires.
Il était même pas sur toutes les plateformes encore en plus.
Oui, qui n'était pas toutes les plateformes, en tout cas dans toutes les régions.
Il est principalement sorti en Amérique du Nord à ce moment-là, on va dire, il arrive en Europe un peu.
Ouais.
Ça commence les configurations. Il était déjà sur PS2 en Europe, mais oui, voilà.
Mais pas encore la Xbox ou pas encore la GameCube ou pas une des deux ou la version PC, je sais plus. Mais bon, bah, c'est là aussi qu'on voit l'intérêt envoyé en termes financiers. C'est-à-dire que pour eux, bah, à cette époque-là, le mois de novembre-décembre en magasin, c'était vraiment une période énorme en termes de vente. La PS2 est déjà un carton mondial à l'époque, hein, parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle existe, c'est déjà en passe de devenir la console la plus vendue de tous les temps, je crois d'ailleurs que le record est toujours le sien, pense que Ubisoft, ils avaient vraiment cette volonté d'investir comme ça le grand public et d'arriver avec des grosses cartouches.
Ouais, et du coup, aujourd'hui, à terme, le chiffre, c'est 15 millions. Voilà, 15 millions d'exemplaires de Sands of Time qui auraient été écoulés. Donc bon, voilà, c'est quand même un gros jeu important que je pense beaucoup de gens, en plus, de gens qui peuvent nous écouter, ont connu. Parce que voilà, c'était à une époque où les jeux sortaient vraiment sur toutes les plateformes. Donc c'était un jeu qui était accessible, peu importe la plateforme que tu avais, que ce soit sur GameCube, PS2 ou PC, tu pouvais y jouer. Et puis ouais, quand ça sort, pour moi, moi, c'était vraiment un événement. Moi, je me souviens, en 2003, j'avais 12 ans. Et ouais, Prince of Persia, c'était un gros truc, quoi. Courir sur les murs, quoi. On pouvait... j'étais vendu direct, tu vois.
Moi, c'était les acrobaties en combat. C'est quand j'avais vu le trailer et je voyais le type qui sautait par-dessus les autres bonhommes pour faire des combats et tout, je me suis dit, putain, ça, c'est cool, quoi. On avait déjà vu des Devil May Cry, on avait déjà vu des trucs comme ça, mais tu te dis, ah ouais, ça envoie du steak, quand même.
Et le Rewind aussi, c'était cool. On peut citer Blinks, The Time Sweeper, qui était sorti sur Xbox an avant, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas un jeu qui a très bien marché
par rapport à Prince of Persia, puisque c'est sorti que sur Xbox, donc déjà les exclusivités Xbox en 2002, c'est plus compliqué.
Je connaissais pas à l'époque Blinks, enfin le nom me dit vite fait quelque chose, mais voilà, je pense pas que je savais qu'il y avait du Rewind, et donc le Rewind de Prince of Persia, voilà, comme on l'a dit, élément différenciant, ça fait partie quand même du package, c'était impressionnant. Ouais.
Très bien, et bah écoutez, on va pouvoir rentrer dans l'autre élément différenciant qui est l'histoire de Prince of Persia. Voilà, mettez-vous dans l'ambiance, imaginez une nuit bleutée, quelques étoiles qui sont là, épinglées dans ce ciel d'Arabie. Quoique Arabie, je dis Arabie, mais c'est le jeu en mode, ouais, c'est l'Inde, c'est la Turquie, c'est plein de trucs, on sait pas trop où ça se passe.
C'est l'Orientistan,
exactement.
C'est les Perses, donc a priori c'est plutôt l'Iran, mais oui, c'est très large, c'est Orient avec un grand O, quoi.
Et donc, Benoît, évidemment, c'est toi qui vas nous conter l'histoire de Prince of Persia, Sands of Time.
J'aimerais bien faire le bruit, tu sais, de la petite goutte, tu sais, parce que du coup, il y a cette cinématique quand tu lances le jeu qui est vraiment... Moi, c'est le truc qui m'avait marqué à l'époque. Mais en fait, on rigole un petit peu sur l'histoire, mais il faut quand même noter qu'ils ont une façon de la raconter qui est très particulière et qui est vraiment une des forces, en fait, de Prince of Persia, puisque donc c'est le prince qui va nous raconter l'histoire. Pendant tout au long du jeu, on pense qu'il nous la raconte à nous, en tant que joueur joueuse, mais on apprendra plus tard qu'en fait, il y a un twist, il la raconte à la princesse. Et donc, pour l'histoire, pour vous donner ça, le roi de Perse emmène son armée pour aller dire bonjour à son maharaja de voisin. Au passage, il passe par l'Inde parce que, bah voilà, et ils se sont dit, bon, il faut quand même faire des cadeaux quand on va chez des gens, on peut pas arriver les mains vides. Donc, ils veulent piller une ville au passage, et ils savent que dans cette ville-là, donc, il y a une relique très particulière qui s'appelle le sablier du temps. Et le prince de Perse, donc le héros, a envie de bien se faire voir auprès du papounet. Et donc, plutôt que de voler un sablier gigantesque, il se dit « je vais voler la dague du temps ». Il y parvient et il va la garder, mais ça va déjà tout de suite créer des petits problèmes. Parce qu'en fait, s'ils ont réussi à envahir cette ville, c'est grâce au vizir, le grand méchant Jafar, qui avait donné les clés de la ville. Alors... Soit dit en passant, je ne sais toujours pas, 20 ans plus tard, pourquoi, alors que c'était le vizir de la ville, il n'a pas volé lui-même la dague, mais bon, c'est pas grave, on ne se posera pas cette question.
Parce que c'est compliqué, c'est dur.
C'est compliqué. Le fait est qu'en fait, il avait comme, on va dire, objectif de contrôler les sables du temps pour devenir immortel, j'imagine, un truc comme ça. Il est un peu deg que ça soit le prince qui garde la dague. Ils arrivent, toute la clique, avec, d'ailleurs, au passage, pas mal de petits esclaves, notamment la princesse Farah, donc la fille du Maharaja qui venait de piller la ville, machin.
De se faire piller, ouais.
Voilà. Et patatras, pendant qu'il teste le cadeau,
il fait un unboxing du sablier du temps, et ça tourne mal.
Et il libère en fait les sables du temps avec la dague, et donc ça va transformer l'intégralité des gens autour en espèce de créatures monstrueuses qui sont directement effectivement sorties du film La Momie. Et là, bah, du coup, le prince et Farah se retrouvent un petit peu tous les deux à être les seuls survivants humains, en tout cas, et à savoir en fait. À avoir, on va dire, la capacité d'inverser le processus. Et donc, toute l'intégralité du jeu, c'est une longue aventure avec beaucoup de sauts, beaucoup d'acrobaties et de petites séquences par-ci, par-là, de puzzles, machin. Je fais un gros avance rapide, là.
En
gros,
flash
au bout
forward.
D'un moment, flash forward, ils arrivent jusqu'au moment où ils pourront, en fait, retrouver le sablier et combattre le grand vizir. Malheureusement, Farah, qui est devenue entre-temps, on va dire, le love interest du prince, est sacrifiée, elle meurt, tout simplement.
Et
donc, le grand vizir essaye de convaincre le prince que c'est comme ça que, justement, les sables du temps, ça sert à ça. Il pourrait remonter le temps pour la refaire, pour la ressusciter. Et le prince, lui, décide que non, ça fait suffisamment longtemps qu'il a joué, il en a marre de sauter partout. Et donc, il enfonce la dague dans le sablier du temps. Et là, twist incroyable! Remontage de temps, vraiment gros rewind vénère, là il a utilisé toutes ses jauges d'un coup, et en fait on revient au début du jeu, et c'est ça un peu le petit twist en termes de narration, et donc on comprend à ce moment-là qu'en réalité le prince a vécu le jeu est revenu complètement en arrière, mais il en a gardé les souvenirs, et donc il va aller prévenir la princesse la veille de l'invasion du tout début, de lui dire « Attendez, votre grand vizir, c'est un traître, faites gaffe, et en plus, je vous connais super, puisque bon, bah... En fait, vous le savez pas, mais on sort ensemble.
Vous le savez pas, mais je suis votre homme.
Et donc, on découvre en réalité que le prince, depuis le début, il racontait l'histoire à la princesse. Et du coup, ça, c'est vraiment un élément sympa, parce que tout est intégré comme ça au jeu. Je sais que ça, c'est un truc qui a beaucoup plu à Max, par exemple.
Beaucoup plus, mais
beaucoup
calmez-vous.
Plus. Ça a été un mind blow. Il nous en parle depuis des jours.
Ah ouais, tu nous l'as au moins dit deux fois, ce qui, pour moi, beaucoup plus.
Non, et sinon, ça termine quand même sur une tragédie, parce qu'elle ne se souvient plus de lui, et lui, voilà. Voilà,
évidemment.
En mode bogos, il lui lâche, alors pour un effet de style, il lâche le mot secret que elle seule connaît, et ça suscite,
et après,
ça l'intrigue, il se casse, voilà. C'est étrange comme technique, mais ok.
Bon, t'as la technique où il l'embrasse, il se prend une gifle, et du coup il remonte le temps de dire ouais, finalement quand même.
Il se dit bon, voilà, elle ne se souvient
ça se fait
effectivement,
pas.
Elle ne se souvient plus de rien, et voilà, donc il lui lâche le petit mot et il se barre. Mais effectivement, le fait que le récit en fait soit raconté à Farah et que diégétiquement, il y a les sauvegardes qui sont un petit peu expliquées, puisque quand on quitte le jeu, il dit « Ah, vous voulez que je m'arrête là ? Bon, on reprendra là la prochaine fois. » Ou quand il meurt, il dit « Non, ça s'est pas passé comme ça, attendez, il re-raconte l'histoire. » En fait, on joue un récit, on joue quelque chose qui a été raconté, et j'aime bien cette petite narration circulaire, c'est simple et efficace.
Mine de rien, en termes de thématique sur le côté les mille et une nuits, avec l'idée de Scheherazade qui raconte son histoire chaque soir, etc., évidemment, on retrouve la même idée de raconter un récit, on retrouve l'idée du temps, du sable, avec tout ça, donc mine de rien, c'est vrai que ça s'agrège bien à l'univers de Prince of Persia, on va dire étendu, imaginé par Jordan McNair, et ça va donner par la suite lieu à d'autres histoires, puisqu'il y aura trois en fait, une trilogie Prince of Persia, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard, hein, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails.
Oui,
voilà, pour l'histoire de Sands of Time, à la fin, ça se finit bien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on évite la catastrophe, le grand vizir est vaincu, et voilà. Et ça finit un peu sur un cliffhanger, parce que le prince saute par-dessus la petite rambarde, et hop, ça y est, c'est la fin.
Et il meurt.
Comme Aladdin.
Oui, comme Aladdin.
Alors c'est vrai qu'il y a cette narration circulaire comme ça qui fonctionne bien. Moi aussi je trouve que c'est bien ficelé. Jordan Mechner avait fait un bon taf à ce niveau-là, à la fois pour justifier les sables du temps, mais aussi toute cette narration. Par contre, on peut quand même revenir un petit peu sur la tonalité globale du jeu qui aujourd'hui a pris un petit coup. À l'époque, il voulait vraiment faire un jeu edgy slash mature, on le remarque d'ailleurs avec l'identité du prince, hein. À la base il était un petit peu cartoonish, un peu enfantin, et puis après ils lui ont quand même donné un book, ce qui permet quand même de bien expliquer que c'est un jeune homme, voilà, en pleine possession de sa virilité, n'est-ce pas, et du coup c'est vrai qu'ils ont fait un truc un peu plus edgy slash mature, avec cette relation avec Farah qui fonctionne bien dans le jeu, mais en termes d'écriture, sur le fond, c'est pas très... Enfin, voilà, elle a quand même été réduite en esclavage pendant je sais pas combien de jours, elle était accrochée à un petit dromadaire qui se baladait.
Ouais, son père a été tué, sa ville a été détruite, 3 semaines plus tard, elle tombe amoureuse du prince. Enfin, je veux dire... Normal.
Il y a vraiment ce respect du cliché hollywoodien où héros il finit toujours avec la meuf, hein, dans 90% des cas c'est ce qui arrive, mais sauf que là tu vois le côté relation entre les deux pendant les phases de gameplay, même si ça s'étend sur entre 5 et 10 heures en fonction des performances de chacun, bon l'évolution quand même de partir de il a pillé son village, machin, était prisonnière, jusqu'à il tombe amoureux, le trajet il est un peu expéditif, quoi.
Ouais, ça se fait un peu vite, quoi.
Il y a aussi la mort du père du prince, tu sais, à un moment tu combats ton père.
Ça aussi,
et tu sais, enfin, le but est. La seule réponse qu'il a dit, ce n'était pas mon père.
Voilà,
genre, no problem, tu vois. Genre, ok,
c'est ça, c'est la
tu dis, si, c'était quand même un peu ton père, malgré tout. Enfin, tu n'es pas traumatisé. Bon, voilà, il s'en fout.
Pragmatique.
Exactement, donc voilà, et puis même dans l'esthétique, c'est vrai que les espèces de bonnes femmes, il y a des ennemis féminins qu'on peut battre, et tu sais, elles sont vraiment en mode dandinement comme ça, elles déhangent vraiment de manière assez, un peu ridicule, bref, c'est un peu les années 2000 dans le jeu vidéo, c'est comme ça qu'on faisait du jeu vidéo à cette époque-là, il finit torse nu, avec des grandes...
Il perd ses fringues, il y a un côté strip.
Il y a un moment où tu tombes, je crois, dans une prison, et tu sais, il y a vraiment un plan en contre-plongée tuer sous un pont et tu vois juste la veste du prince T qui s'envole comme ça et là tu le vois, ça y est, il est torse nu comme sur la jaquette du jeu et voilà, et maintenant on est en pleine voilà, on est vraiment au summum, c'est là où il est le plus fort, c'est quand il est torse nu.
Mais même au-delà de cette idée de, on va dire, d'écriture un peu adolescente en fait, hein, c'est plutôt ça, je pense qu'on voulait dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de clichés, tu vois, surtout cette vision de l'Orient vue par des Occidentaux qui est quand même très, très caractéristique. C'est pour ça qu'on citait Aladdin, qu'on citait des trucs comme ça, parce que c'est un peu l'idée que les gens se font, tu vois, de l'Orient. Tu prends des gens dans la rue, tu leur demandes éventuellement ce que c'est. Je pense que voilà, encore une fois, tu mélanges un peu fort et pouf, ça peut donner leur univers.
Il manque un petit génie, une petite lampe, mais, ouais, c'est mais presque voilà, ça, après, ouais. On est bon, ouais. Très bien, donc ça c'est vraiment pour l'histoire qui effectivement a pris un petit coup. Maintenant on va vraiment revenir sur le gameplay. Je sais plus si on l'a dit, le côté que vraiment ils ont pensé le jeu autour de trois piliers, donc il y avait à la fois, c'est d'un côté les puzzles acrobatiques, les autres puzzles un peu plus à l'ancienne, et puis les combats, c'est vraiment là-dessus que s'est construit le jeu, et ils ont vraiment essayé de moderniser, ils ont innové un petit peu sur tous ces plans, et je pense que vraiment le premier truc à retenir, bah, c'est ce côté plateforme un peu qui devient presque du parcours, dans le sens où on n'a pas forcément la même liberté qu'on aura dans un platformer 3D traditionnel, là je sais pas, à l'époque il y avait quoi, il y avait Mario Sunshine probablement qui avait dû sortir.
Dans ce jeu-là, ouais.
Il y avait Rayman 3 chez Ubisoft, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'équivalents. Ça, c'était des jeux de plateforme vraiment traditionnels, on avait beaucoup de liberté dans les mouvements, c'est des jeux qui étaient assez expressifs, on va dire, dans les solutions qu'on pouvait trouver pour avancer. Là, c'est pas du tout le cas. Vraiment, le jeu, la plateforme, c'est beaucoup plus du puzzle, en fait. On va devoir, pour avancer, trouver la bonne séquence d'action à rentrer dans le jeu. Ça va être, je sais pas, commencer par sauter, ensuite on court sur le mur, ensuite on s'accroche à un pilier, on tourne autour du pilier, on ressaute à un autre pilier, on s'accroche à une rambarde, on fait des galipettes et hop, on arrive, tu sais, tralala, Rodriguez, j'ai fait le parcours. Et c'est vraiment ça qu'on va devoir faire tout au long du jeu. L'intérêt et l'enjeu, c'est beaucoup plus de comprendre, voilà, l'enchaînement d'actions qu'on doit faire plutôt que vraiment les exécuter, même s'il y a une partie d'exécution comme ça.
C'est en fait la principale différence avec de la plateforme classique, c'est que déjà le saut, en fait, le saut n'est pas un mouvement de base, c'est-à-dire que tu peux sauter de manière un peu contextuelle dans Prince of Persia, tu peux pas faire des bonds comme Mario, vous savez, quand vous vous amusez dans Mario 64 à faire les trois sauts de Yahoo, Yahoo, comme ça. Surtout, il n'y a pas du tout de variation dans les distances de saut, c'est-à-dire que tu vas pas, en appuyant plus longtemps sur le bouton, il va pas courir plus longtemps ou courir moins longtemps, il n'y a pas du tout de variation, donc c'est vraiment, comme tu disais, voilà, des séquences, plus du parcours d'obstacles. Alors je sais plus quelle est l'année, tu vois, de Yamakasi, la sortie du film, mais je pense qu'on est aussi, tu vois, aussi dans cette époque, je pense que ça fait partie un peu du pot-pourri culturel qu'ils peuvent avoir, quand ils se disent, ah ouais, un peu ninja, tu vois, tigre et dragon, ils citaient également, le côté, le héros, il court sur des murs, il peut grimper, il peut sauter, il est super agile, et ce qui est assez rigolo, c'est que même encore aujourd'hui, ça marche bien, parce que du coup, c'est très simple, tu vois, il y a une touche réservée aux courses sur le mur, et une touche réservée au saut, alors qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à avoir le côté automatique, comme on a dans les Assassin's Creed, on y reviendra un peu plus tard, de toute façon.
Ouais, pour préciser, tu disais que c'était contextuel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut appuyer sur le bouton saut, qui est en fait, en temps normal, un bouton roulade, ou peut-être un bouton saut sur place quand on est sous une barre de fer, mais quand on est, quand on court, et qu'on appuie sur ce bouton, quand on est au bord du vide, là, il se à sauter, en fait, ce qu'il aurait pas fait si ça avait été du sol. Et c'est vrai que du coup ça réduit vachement le champ des possibles, puisque dans un jeu normal, en fait, tu pourrais essayer de sauter à plein d'endroits différents pour dire est-ce que c'est là. Non, là c'est sûr que s'il n'y a pas de vide, si la plateforme s'arrête pas au bord du vide, il n'y a pas de saut possible, quoi.
Par contre, l'intérêt, c'est que ça permet en fait à tout le monde de faire des choses très très stylées. Il y a un côté très spectaculaire vraiment dans toutes ces acrobaties, parce que là où dans un Mario ou dans un Rayman, il va falloir quand même que tu aies un certain skill pour pouvoir faire les mouvements les plus chouettes et vraiment faire des séquences qui sont impressionnantes. Là, dans Prince of Persia, tout de suite, tout le monde va pouvoir courir sur les murs, s'accrocher aux piliers. Alors, il y a quand même des petits timings importants, là, j'y repense, parce que je pense à Mario, et tu sais, il y a le fameux saut mural, tu sais, en diagonale. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit timing à respecter, il faut quand même le prendre en main. Mais voilà, il y a un côté très, très spectaculaire qui est très accessible et qui permet, je pense, vraiment à tout le monde de pouvoir profiter de ce délire de ninja, d'être un super prince hyper agile. Et je trouve que ça s'inscrit vraiment dans la démarche qu'ils avaient, Ubisoft, de dire, on veut faire du triple A, on veut faire quelque chose qui soit fédérateur, qui parle à un maximum de monde. Et vraiment, je pense que c'est ce qui fait une des premières forces du jeu.
Et le jeu est pas dur, en fait. Il y a différentes choses qui vont t'aider. Patrice Désilé, il le dit lui-même, il dit un jeu, c'est fait pour être fini. Donc, de toute façon, les Sables du Temps, c'est pas un jeu qui est particulièrement dur. Alors, déjà, évidemment, on peut commencer, il y a la mécanique du rewind, hein, tout simplement. Alors, c'est limité, on a des stocks limités, on en aura de plus en plus tout au long du jeu. Mais voilà, si on se plante dans un saut, hop, on peut remonter le temps. Mais il y a aussi plein de petits trucs assez élégants, je trouve. Notamment, faut souvent faire des combos où on court le long d'un mur à l'horizontale et ensuite il faut sauter à 90 degrés et s'accrocher à un pilier ou un bord. Et en général, il y a l'ombre du pilier qui nous indique le bon timing pour sauter. Donc, même si on le disait, il y a une petite part d'exécution là pour enchaîner ces deux mouvements. On te dit où est le bon endroit pour sauter. C'est pas à nous de jauger vraiment la bonne perspective ou quoi. Quand il marche sur l'ombre, c'est que c'est bon.
Puis on voit bien le personnage quand il saute de toute façon d'un mur à un autre, quoi que ce soit. On voit qu'il se décale un petit peu. Il y a un côté très magnétique en fait des animations où en fait il va rattraper. Si on est à un demi centimètre en retard, il va corriger en fait sa trajectoire parce qu'il a compris qu'on voulait aller là. Et ça, c'est agréable. C'est pareil sur les mouvements de piliers. Un truc qui est super agréable, c'est qu'il n'y a que 4 positions. En fait, on peut tourner 4 positions, nord, est, ouest, etc. autour des piliers. Et qu'après, il suffit d'appuyer sur le bouton et on saute obligatoirement en opposé. Alors que ça, il y a plein de jeux où c'est un peu compliqué. On saute dans le vide, on saute en diagonale ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment très simple.
Et même s'il y a 4 positions du pilier, en fait, t'as pas besoin d'être la bonne position du pilier. Par exemple, s'il y a donc 2 piliers, si tu dois faire le saut d'un pilier à l'autre, même si à un moment techniquement tu devrais tourner le dos au pilier avant de lui sauter dessus, tu peux être de l'autre côté, c'est-à-dire avoir de face à toi, t'as le pilier auquel tu t'accroches et l'autre pilier encore derrière. Si tu fais le saut, ça marche. En fait, il tourne automatiquement et il saute. Donc à ce niveau-là,
j'ai toujours pris le temps.
J'ai jamais tourné autour du pilier. Direct, tu fais t'enchaînes les sauts, il le fait directement.
Après, c'est peut-être bien de donner un point de comparaison. Par exemple, tu vois, je pense au jeu de Fumito Ueda, Ico et Shadow of the Colossus. Ça, c'est des jeux là sur les sauts comme ça, un peu latéraux. Ça pouvait être un petit peu compliqué. C'est vrai aussi, d'ailleurs, il y a un point qui est important, c'est la caméra. À la base, ils étaient partis sur une idée de caméra fixe. Donc là, encore une fois, comme Ico, alors c'est de la caméra fixe quand même sur laquelle tu peux avoir une petite incidence. Hein, tu vas pouvoir la décaler. C'est pas non plus les caméras fixes de Resident Evil. Mais là, au final, dans Prince of Persia, ils sont partis sur une caméra beaucoup plus libre. Même si ils choisissent eux-mêmes quand même certains angles. Il y a vraiment des moments où dans des salles, c'est vraiment eux qui vont gérer la caméra pour orienter ton regard vers la prochaine étape du saut. Donc il y a quand même voilà, ce mélange de contraintes des designers qui t'aident à bien regarder où il faut et en même temps la liberté de manipuler la caméra dans les moments où il le faut dans ces séquences de plateforme. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça, voilà, ça donne une expérience finalement qui a plutôt pas mal vieilli, en tout cas sur ce truc-là, parce que voilà, c'est quand même proche. En tout cas, c'est un peu un brouillon de ce qui va se faire après par la suite.
Il faut se souvenir qu'à l'époque, donc on est en 2003, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des jeux en 3 dimensions. C'est que la deuxième génération de consoles qui font des jeux 3D. Hein. La PlayStation 2, c'est encore assez récent. Et un truc que le jeu faisait à l'époque et qui faisait partie, je trouvais, de ses bons arguments, c'est qu'on avait en fait 3 caméras. Donc on avait la caméra 3D classique où on tourne autour du personnage. On avait une caméra recul où à tout moment, en fait, ils avaient prévu, comme tu le disais, les devs, des angles de caméra pour voir l'ensemble de la salle à tout moment avec ce fameux bruit là, t'as une espèce de bruit désagréable où à chaque fois t'as ta caméra qui recule. Et t'avais également une caméra subjective où tu pouvais te mettre en première personne, ce qui permettait notamment de vérifier peut-être un angle, d'aller voir peut-être un passage secret, parce qu'il y a quand même quelques petits secrets à droite à gauche. Et ça, je trouvais que c'était super cool à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu moins ce réflexe parce qu'on a l'habitude en fait d'évoluer dans des trucs en 3D, mais il faut se souvenir qu'il y a une vingtaine d'années, c'était pas encore si évident que ça. Donc ils proposaient aux gens plusieurs angles de vue pour donner au maximum de gens la possibilité de comprendre leur espace.
Ce que j'ai bien aimé aussi, un petit détail, et on en discutait quand on préparait, c'est, tu sais, il y a un passage dans le jeu où on doit s'accrocher à des stalactites qui vont tomber. Et tu sais, c'est vraiment, pour revenir sur ce que je disais sur ce côté spectaculaire, en fait tu peux t'accrocher à la stalactite et tu sens qu'elle tremble, qu'elle va tomber, mais elle a quand même pas mal, il y a un timing qui est assez long, et c'est seulement quand tu vas sauter qu'elle va finir par tomber. Donc il y a ce côté, déjà ces prémices, vous savez, qu'on a beaucoup aujourd'hui, de l'inextrémisme, de dire voilà, hop, t'as fait vraiment le bon saut avant que tout s'écroule, qu'on retrouve beaucoup dans Uncharted, et on y reviendra un peu plus tard. Vous pouvez cocher votre bingo. Et vraiment, je trouve qu'il y a déjà des en fait, comme tu le dis, Max, une certaine élégance, une certaine compréhension en fait de ce qu'ils avaient envie de faire et de comment le sublimer. Et c'est vrai que le jeu s'en sort vraiment pas mal là-dessus, avec plein de petits détails. Les animations du prince, je crois qu'il y en a 780, alors ça implique tout, hein, ça implique le combat et tout, mais il y a énormément de travail qui a été fait sur le prince. Le level design aussi a été énormément travaillé. Ils ont beaucoup fait voilà, de blueprints pour pouvoir arriver à créer toutes ces salles qui vont se complexifier en plus tout au long du jeu. Hein. C'est vraiment un jeu qui arrive à peu près jusqu'au bout à monter en gamme avec ses puzzles, même si à la fin ça peut être un petit peu redondant parce que bon, quand tu as compris quand même la formule, disons tous les éléments avec lesquels ils peuvent jouer, c'est-à-dire les barres de fer, les piliers, les machins, bon. Tu commences à peu près à comprendre comment ils façonnent le truc. Mais voilà, ça s'étale bien jusqu'au bout. Et comme tu disais, Benoît, tu sais, comme on n'a pas forcément de variation, en fait, je pense qu'ils ont pu vraiment avancer assez vite aussi parce que bah, tout était calibré. C'est-à-dire que voilà, il y avait des tailles, tu sais, il y avait vraiment des distances à respecter entre ouais. une barre et entre des piliers et entre des murs avec un saut. Et du coup, bah, tu peux un peu fonctionner comme si c'était un peu des Lego et te dire, bon, bah voilà, j'ai les contraintes des distances et je dois rester dans ce canevas-là pour pouvoir faire fonctionner mon level design.
Mais c'est ça, en fait, sur les unités donc, du level design, hein, ce qu'on va appeler les metrics du jeu, c'est quelque chose, une fois que ça a été défini pour le proto, après, bah, ils ont fait que varier ça. C'est-à-dire qu'ils connaissaient en permanence la distance pour sauter, pour grimper au mur, passer d'un mur à un autre, etc. Et je pense que c'est d'ailleurs un des aspects, et je pense que c'est pour ça que ça avait plu à Jordan Mechner quand il avait vu cette fameuse animation, puisque bon, bah, au départ, Prince of Persia, c'est un peu le papa, le père fondateur du cinématique platformer, avec justement cette idée d'animation très travaillée, avec beaucoup de spectacles dans cette idée-là, et je pense que c'est vraiment dans cet aspect-là que vraiment l'équipe de Montréal a réussi à moderniser, on va dire, la formule de Prince of Persia original, avec cette idée d'avoir des animations très calibrées, très maîtrisées. Alors, ça enlève la part d'inertie du jeu de plateforme classique, mais on y gagne ce côté, comme on disait, spectacle cinématographique, qui est également, bah voilà, qui colle bien avec cette idée de faire un jeu très grand public.
Et puis, il y a Farah, hein, qui est l'IA, qui va nous accompagner, et ça aussi, ça va avec le côté spectacle, puisqu'ils ont quand même des interactions entre eux. Alors, il y a des moments où elle va bon, tirer sur des leviers, ça, appuyer sur des boutons, ça arrive quelques fois, mais elle sera là aussi en combat. Elle aura un arc, elle va tirer. Moi, j'aime bien quand même le petit. Malgré le fait que je trouve que l'écriture, effectivement, entre les deux, soit pas ouf, il y a quand même des petits moments sympas où elle va réagir en fait à nos actions, ou alors à l'inverse, parfois elle nous tire dessus. En fait, si on est aligné entre sa cible et elle, bah, on se prend une flèche, on perd un peu de vie, il fait genre aïe, elle fait genre sorry, tu vois. Et où t'as des moments, alors c'est pour ça, il y a toujours un peu l'ambiguïté, c'est que t'as des moments où tu vas t'accrocher un peu à une plateforme, elle fait genre donc c'est très comment dire, c'est un peu, je sais pas, tu vois, c'est cousu de fil blanc, tu vois qu'il y a ce côté un peu
faire, c'est vrai que son rôle parfois sais, mais... elle est là pour renforcer justement le côté un peu spectacle danger du prince,
mais l'idée est bonne.
Mais ce que tu peux te dire, c'est qu'en fait c'est le prince qui exagère un petit peu aussi son récit, tu vois, c'est à dire qu'il enjolive un peu tout ça. probablement on peut tu vois,
en
tu
fait,
peux
c'est
réussir
lui, c'est lui qui écrit pas bien, ouais. Donc en fait
c'est pas la faute du studio, c'est la faute du prince.
Voilà, c'est le prince qui ne raconte pas bien, ça fait partie de son personnage d'exagérer les choses. Très bien, ça marche. Ah, c'est bien, on peut justifier énormément.
C'est
tout,
un jeu
ça, c'est
Kojima, très bien.
Et donc bah, l'autre grosse partie, puisque bah, on en a parlé, les animations, ça faisait vraiment partie du cœur du boulot. Ils voulaient vraiment donner un côté vraiment très beau à l'ensemble. Et évidemment, les combats, c'est devenu très rapidement un des autres piliers sur lesquels ils se sont mis. Et c'est vrai que notre personnage, il peut faire des acrobaties constamment. Il peut pas s'empêcher, quand il doit planter sa dague pour absorber le sable d'un ennemi, il est obligé de faire un petit, voilà, une petite rondade.
C'est vrai qu'il fait
un petit salto. Même avec son bras, tu sais, des fois, il fait des petits saltos avec son bras, comme ça sert à rien, mais ça fait joli. Moi, à chaque fois que je voyais, quand j'ai revu le jeu, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo avec le gamin là qui faisait ses animations, tu sais, de Jedi.
Ah oui, c'est vrai.
Je pensais un peu à ça. Je me dis, c'est un peu la même époque en plus, donc c'est marrant.
À la fin, tu t'attends à ce qu'il y ait une espèce de tableau à la Bayonetta où ils te lisent le nombre de pirouettes, le nombre de roulades que t'as faites, et t'as la petite note, le jury qui lève ses 8 sur 10.
Mais ouais, non, mais c'est un peu ça. T'as ce côté vraiment. Spectacle en fait du combat où le personnage c'est très cabotin, quoi, tu vois.
Il y a presque un côté chorégraphie, oui. Quoi, vraiment, parce cette petite rondade pour aller planter la dague, c'est vrai que
d'un moment t'es là, bon,
les gars, c'est bon, plante juste ton truc, arrête.
Et puis t'es bien content de t'être pris un coup de hallebarde avant d'avoir pu planter le gars aussi. Tu fais, ah, mais t'as fait ta roulade, bah t'es content maintenant, maintenant t'es par terre, bah voilà, bah bravo.
Mais bon, mine de rien, le gros mouvement qui a vraiment marqué les gens, c'était avait ce fameux saut par-dessus les ennemis qui permettait de passer
dans le dos.
Tu
leur grimpes un peu sur devant et hop, petite à petite, encore rondade, mais cette fois en l'air, 9 sur 10,
triple
et
loot,
tu tombes derrière.
Hop, voilà, double boucle piqué, il retombe, hop, Candeloro. Et en plus, bon, c'est un mouvement en plus le plus puissant, parce qu'une fois que tu as compris que tu peux tuer les ennemis quasiment en un coup, en faisant ça, tu vas faire ça non-stop jusqu'aux ennemis qui vont t'empêcher de leur sauter dessus. Mais voilà, les combats, ça fait vraiment partie de ces idées qu'ils ont voulu améliorer et innover à l'époque. Et il y a notamment un des trucs, c'est cette idée qui a été beaucoup reprise par la suite, où en fait le personnage est souvent au milieu des autres ennemis. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ennemi en face à face en mode duel, on est souvent encerclé, et donc en fait en fonction de la direction de stick et de l'attaque, on va attaquer les ennemis en fonction de la direction. Et donc ce mouvement de saut par-dessus, c'est très malin, parce que ça permet de maîtriser son espace et donc de se sortir de ces situations d'encerclement. Et donc ça nous donne comme ça ce côté un peu in extremis, encore une fois.
Et tu peux, t'as certaines salles qui sont pensées pour que tu puisses te soigner aussi pendant le combat si jamais, donc ça veut dire qu'il prévoit quand même le fait que tu puisses t'enfuir du combat pour aller te soigner. Enfin, ça c'est une décision que tu vas prendre en plein combat qui va être appréciable. Ça peut créer des moments de jeu où tu te dis, ah, je suis parti in extremis, il me restait un centimètre, ou alors je buvais de l'eau et là je me suis pris un coup juste avant que j'ai le temps de boire ou quoi. Donc c'est, oui, la fuite est complètement prévue. Et toujours dans la famille acrobatie, t'as aussi ce petit move où il peut sauter. Moi je l'ai pas fait une seule fois, je l'avais pas compris ça en jeu, puisqu'on le voit dans un flash forward, on pourra revenir dessus, mais tu peux te mettre contre un mur et sauter un peu à la Olivier Tom, là, le gardien de foot contre les piliers, et il fonce sur un des monstres en lui foutant un coup d'épée. Enfin, ça a l'air trop long pour ce que ça fait, mais bon, pourquoi pas.
C'est spectaculaire.
C'est quand t'es dedans, en fait, c'est agréable et t'as pas cette lassitude. Enfin, tu vois, je me revois vraiment jeune adulte, parce que quand il est sorti, j'avais tout juste 18 ans. C'était vraiment un truc très grand spectacle, quoi, et c'était génial en fait de pouvoir apprendre à maîtriser la palette de mouvements du prince. C'était cool de se dire, alors attends, là je grimpe sur le pilier, je fais mon salto, je touche l'ennemi derrière, boum, chorégraphie, je fais ma pirouette et je vais mettre la dague dans celui d'avant. Enfin, au bout d'un moment, tu commençais à jouer avec les ennemis, parce que les combats sont pas très durs. C'est déjà le début de cette mouvance du jeu vidéo où les ennemis sont à 4 autour de toi, mais ils attendent chacun leur tour pour t'attaquer, donc il n'y a pas non plus un danger énorme. Finalement, il y a quelques passages. Moi, je sais que là, en rejoignant le jeu, le combat contre ton père, cette salle-là, elle est assez longue, mais justement, heureusement, il y a une petite piscine pour aller boire de l'eau et pour se remettre un peu de vie. Mais sinon, la plupart des combats, en fait, il n'y a pas non plus, 40 000 ennemis, donc on en vient assez vite.
Il y en a juste 30 000.
Ouais, bon, toi, tu trouves qu'il y en a trop, mais d'accord.
Il y a aussi que les combats sont aussi vraiment structurés avec cette mécanique de récupérer le sable dans les ennemis. Hein, c'est la fameuse rondade, c'est pour ça. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment ce finish move sur chaque ennemi. Il faut vraiment les finish, sinon ils reviennent encore à la vie. Les combats, on peut peut-être commencer à en parler. C'est vrai que je trouve que c'est probablement l'aspect du jeu qui souffre le plus avec le temps. Alors déjà à l'époque, comme j'avais relu les tests, c'était une des critiques qu'on pouvait faire au jeu, mais là c'est vrai qu'avec le temps, je trouve qu'ils ont tendance, même si on peut vite y aller quand on a bien compris ce que ça fait, ils ont quand même tendance à s'éterniser un petit peu, parce que c'est pas très 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 intéressant. Il y a ce côté, voilà, faut systématiquement, en tout cas surtout au début du jeu, parce qu'après tu vas débloquer une arme qui te permet de tuer les ennemis d'un coup, enfin sans passer par la dague et de les aspirer dans la dague, mais vraiment au début du jeu, il y a ce côté un peu haché du combat, parce qu'il faut absorber chaque truc, et si tu le fais pas, les ennemis reviennent à la vie. Il y a un respawn qui peut paraître un peu infini. Je trouve qu'il n'y a pas cette structure dans les combats, tu sais, de vagues. On ressent pas vraiment les vagues comme aujourd'hui on va les ressentir dans un combat un peu plus moderne. Je pense à Gears of War, je pense peut-être à Red Dead, tu vois, où tu sens vraiment les vagues d'ennemis, où t'as tué tous les mecs et puis hop, il y en a qui déboulent d'une autre colline. Là, c'est un peu du respawn un peu infini qui est pas forcément, il y a pas en plus de différenciation dans les ennemis, il n'y a pas un bestiaire qui est très varié, donc ils ont du mal, je trouve, à rythmer leur propre combat, à se renouveler comme ça. Moi, c'est vrai que je les ai pas mal subis, et je trouve qu'au bout de déjà 2 heures de jeu, t'as l'impression quand même globalement d'avoir fait le tour du truc. Heureusement, ils arrivent à trouver cette espèce de move magique, là, cette espèce, une fois que t'as rempli toutes tes jauges, tu peux vraiment freeze le temps et faire un schlack, 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 où le prince, là, il fait vraiment des petits allers-retours comme ça en zigzag sur tous les ennemis, et c'est assez sympa, c'est assez satisfying, mais bon, voilà, après, je trouve que les combats, ça a pris un peu cher dans le temps, et c'est, voilà, on les subit un petit peu.
Un, un des soucis, c'est que, et qui est paradoxal, c'est que comme ils ont énormément travaillé les animations du prince, ils ont alloué beaucoup de ressources et de temps de travail et de temps humain, tout simplement, à ce personnage-là, et ils ont un peu délaissé, en fait, le bestiaire, et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir finalement très peu d'ennemis. En termes de bestiaire, il y en a finalement très très peu, avec des swap colors, du coup, en disant, bon, bah, il y a les gardes rouges, il y a les gardes bleus, etc. Enfin, ils changent effectivement, au bout d'un moment, t'as les ennemis qui t'empêchent de leur sauter dessus, il faut les contrer ou il faut éventuellement les contourner, mais sinon c'est tout. Donc c'est vrai que le manque de diversité qui est quelque chose qu'on peut saluer pour l'évolution par exemple dans les plateformes, puisque comme on le disait, du début jusqu'à la fin du jeu, on sent qu'il y a une évolution constante, petit palier par petit palier, tu vois, c'est ensuite on a un saut plus un pilier, un saut plus un pilier, plus un piège, et ainsi de suite. Là dans les combats, malheureusement, comme tu dis, on arrive à un plateau au bout d'une heure, une heure et demie. En gros, pour moi, c'est le combat contre le père, c'est le moment où t'as déjà quasiment tout vu en fait du combat. Il te manque 2-3 scarabées, 2-3 oiseaux à défoncer, mais sinon c'est tout quoi.
Et la caméra elle est infernale. Enfin vraiment, moi j'ai fait le test, je suis resté sur place avec juste le bouton de garde enfoncé, la caméra bouge toute seule, parfois elle fait vraiment un peu des tours sur elle-même et tout, c'est n'importe quoi. Et t'as les combats contre les oiseaux aussi qui sont vraiment, t'attends jusqu'à ce qu'ils viennent te picorer et ensuite
ça, c'est vrai que c'est quand t'as pas Pharah en plus qui peut leur tirer dessus avec l'arc, t'attends et t'espères que ton coup d'épée va les toucher quoi.
T'as des moments avec des chauves-souris aussi où t'étais accroché à des rebords et t'as plein de chauves-souris qui t'arrivent et tu sais, tu dois juste mâcher comme ça le bouton au taper pour le faire. Voilà, ça c'est vraiment le jeu vidéo à son plus bas, tu vois, en termes
Un truc, ça c'est Max qui l'avait noté et moi je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'il me le dise. Il y a presque aucun feedback quand tu tapes en fait les ennemis, c'est à dire qu'il y a pas vraiment, les ennemis prennent pas vraiment en compte le coup. Il n'y a pas une animation où ils sont stun ou quoi que ce soit, il n'y a pas de gerbe de sang, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de truc. Et la plupart des coups, en fait, t'as l'impression de... Alors, c'est la blague, mais t'as l'impression de taper dans du sable, justement, tu vois. Parce que même plus tard, on va débloquer une épée qui permet de casser des murs. Et en fait, il n'y a aucune indication que ce que tu fais marche. C'est au bout d'un moment, le mur se casse, et t'entends juste gling gling, mais comme tu entends gling gling quand tu tapes dans n'importe quel mur, quoi. Donc c'est un jeu qui manque finalement, il y a beaucoup de polish sur certains trucs, et sur certains aspects où aujourd'hui on est peut-être un peu plus exigeant, on sent que là, à cette époque-là, c'était pas des trucs sur lesquels ils avaient passé autant de temps, quoi.
Bah d'ailleurs, sur les ennemis qui se téléportent en combat pour nous rejoindre, c'est parce qu'il y avait des gros problèmes en fait de pathfinding, hein, c'est-à-dire vraiment que les ennemis arrivent à trouver leur chemin, arrivent à bien se déplacer sur les maps, dès qu'ils sont sur un étage ou un truc comme ça, ils sont perdus. C'est-à-dire que les IA, elles savaient pas du tout gérer ça, du coup ils ont fait, téléportation, ouais. Et du coup c'est pour ça qu'ils repop vraiment constamment vers toi. Tu sais pas si c'est un nouvel ennemi, tu sais pas si c'en était un qui s'était perdu, mais il est là, maintenant, il arrive vers toi. Donc c'est vrai qu'encore une fois, beaucoup de boulot avait été fait pour le prince, et bon, voilà, on rappelle quand même, ça a été 6 mois de crunch et tout pour vraiment pondre tout le jeu, donc on imagine que ça a été difficile, et on comprend en fait ce résultat avec l'histoire de la création du jeu. Mais malgré tout, dans les faits, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, en termes de combat, c'est pas très très, pas très très intéressant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il n'empêche que... Au final, il y a quand même un ensemble qui se tient bien, qui est quand même plutôt cohérent. Je trouve qu'ils ont vraiment fait le bon choix de se focaliser sur quelques aspects. Le côté plateforme puzzle, les combats, les puzzles un peu plus traditionnels avec des caisses, pousser des miroirs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même quelques grandes salles du jeu où c'est vraiment du puzzle façon Ico, hein, vraiment à l'ancienne. Où... Déplace les tuyaux, attention, il ne faut pas oublier.
Ce garde qui t'aide à activer le système de défense, c'est génial. Défense, du coup, Max, lui, il a fait le jeu en anglais, moi, je l'avais refait en français, et en fait, c'est le même type de personnage.
Tu te fais hurler dessus, apparemment, dans les deux.
Attention, il faut bien aligner les lunes, il faut bien faire ça. Et tu sais, en fait, c'est un tuto qui te gueule dessus en permanence. Il faut maintenant tourner, plus que 3, plus que 4, plus que 2.
Oui, c'est bien celui-là, ouais, yes. T'as vraiment l'impression que c'est les développeurs qui te, à côté du playtester qui est là, yes, super, bien joué. Enfin, bref, ça c'était assez amusant, et on retrouvera des puzzles comme ça. Je me souviens vraiment de cette salle où il faut déplacer plein de miroirs pour rediriger des rayons, pour allumer un truc et tout, c'est tout un complexe comme ça.
Ce puzzle, je l'avais absolument pas compris, je pensais qu'il fallait que le rayon tape dans tous les miroirs, alors qu'en fait, pas du tout, il faut juste qu'il rentre dans le seau sous l'épée. Enfin voilà, le jeu te dit pas vraiment. Enfin, c'est pas 100% clair. J'ai interprété d'une façon qui était légitime à mes yeux. Et bon.
Mais c'est parce que c'est des salles, tu vois, qu'on avait déjà croisées dans d'autres jeux, oui, qu'on avait déjà, enfin tu vois, arrivé 20 ans plus tard, c'est des trucs qu'on a vu dans tous les Zelda, dans tous les dans tout un tas de jeux, donc forcément on comprend pas forcément tel qu'ils nous le montraient à l'époque, en fait, je pense.
Mais du coup, un ensemble qui est cohérent, ils le disaient vraiment, ils avaient envie de pas trop s'éparpiller, de ne pas partir dans tous les sens, de pas mettre des features sur lesquelles ils seraient pas au top. Eux, ils voulaient vraiment vraiment du niveau triple A partout, et même si le combat, on peut le dire, c'est pas ouf, en vrai c'est quand même du combat triple A, il y avait ce côté spectacle et tout, les acrobaties, vraiment à l'époque c'était spectaculaire, ça marchait très bien, et voilà, un jeu qui trouve vraiment une cohérence, qui a un bel ensemble, qui est plutôt bien rythmé, même je trouve qu'il est peut-être un peu trop complètement dans la course à l'activité, tu vois, c'est tout le temps combat, puzzle, machin, truc, tu sais, tu vois, il arrête jamais, c'est un jeu qui te laisse pas trop le temps de respirer comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve qu'on laisse un peu plus, il y a plus d'aération, il y a plus de souffle comme ça. Là, le jeu est vraiment dans une course contre la montre. Et du coup, c'est vrai que même aujourd'hui, on le trouve peut-être un peu trop long, alors qu'à l'époque, c'est vrai que la critique, c'était ça ne dure que 10 heures, donc voilà. Terme de durée de vie, vous n'en aurez pas pour votre argent.
Et ce Fouillot de Gamekult, qui à l'époque, du coup, avait le temps de tester les jeux, qui du coup, forcément, aujourd'hui, quand il en sort 20 000 fois plus, ben en fait, voilà. Non, mais c'est rigolo de se dire que justement, en 2004, tu vois, un jeu qui durait 10-12 heures, t'étais là, c'est pas très long. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, jeuxvideo.com notait encore la durée de vie. C'est-à-dire qu'ils avaient encore leur système de critères et la durée de vie était, c'est-à-dire plus c'était long, mieux c'était.
Bon, après, 10-12 heures encore, c'est au-dessus de la réalité. Hein. Nous, on a fini, enfin moi j'ai mis 7h30 à peu près pour finir, je l'avais pas fait à l'époque.
C'est les testeurs, tu sais, ils disent oui, vous avez pour 25 heures alors qu'en fait t'en mets 15. C'est vrai que c'est assez marrant ça, cette tendance. Moi je remarque quand même que dans les tests, il y avait tendance à dire plus de temps qu'il fallait. Alors est-ce que c'est parce que je suis un vrai gamer et que voilà, mon skill est incroyable et que je suis toujours allé plus vite que la moyenne, que la plèbe des joueurs? Je suis pas sûr, j'ai toujours l'impression qu'on a toujours grossi un peu le trait.
Il y a une explication.
J'ai envie de l'entendre.
Non,
parce que
c'est parce que bon, alors il faut savoir que pour une partie des jeux, quand ils sont suffisamment lents, étant donné que les testeurs ne le finissent pas, en fait, ils donnent simplement l'estimation qui leur a été donnée par les studios. C'est-à-dire que leurs studios vont leur envoyer le jeu en disant il se termine en 25 heures et vous pouvez être sûr que dans le test, il y aura écrit il se termine en environ 25 heures, même si la personne, elle a joué que 10 heures. Parce que, de toute façon, dans la réalité d'une rédaction, hein, ça, c'est pas, je suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit, on n'a pas forcément toujours le temps de finir les jeux. Donc, quand tu peux te perdre, ce qui est paradoxal, parce que derrière, ils se plaignent quand les jeux sont trop courts, mais bon, bref. Le fait est que, comme tu peux pas toujours aller au bout, des fois, tu te retrouves bêtement à avoir l'indication, l'estimation du studio dans ton test à l'arrivée, et les gens
et
vont se baser
qui est en général vu un peu à la hausse, et ça se voit même encore aujourd'hui. Je sais que là, je sais pas, il y avait Disco Elysium, par exemple, où je sais que Robert Kurtwitz, il annonçait c'était un 100 heures de RPG, alors qu'en fait, non, 25, tu peux le terminer. Et je sais pas, Doom Eternal, où ils annonçaient que c'était un jeu de 25 heures, alors qu'en fait, en 15, c'est plié, c'est pas vrai. Donc il y a souvent tendance quand même à surévaluer le temps que tu vas mettre à faire le jeu. Mais bref, tout ça pour dire que déjà. Ouais,
je voudrais juste revenir sur le rythme où, tu vois, on le trouve peut-être un petit peu long aujourd'hui, mais c'est parce que moi, à titre personnel, je le trouve quand même très répétitif. Autant je suis d'accord qu'on pourrait l'espacer avec des moments de narration, mais on pourrait aussi tout simplement amener d'autres scènes d'action en fait pour rythmer un petit peu mieux, et on en reparlera peut-être un petit peu encore avec Uncharted, puisque je suis globalement d'accord que la formule tient toujours très bien aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur un dernier truc, je trouve qu'il y avait une bonne idée sur la dernière partie du jeu où tu n'as plus la dague. Et ça, mine de rien, ça veut dire que c'est game over. Quand tu meurs, c'est game over. Il n'y a plus de rewind, en fait. T'as plus la dague, plus de rewind. Bon, après, les checkpoints sont plutôt gentils, mais à l'échelle du jeu, ça fait quand même bizarre de mourir et de devoir recommencer directement. Et en fait, ça me fait penser vraiment à un moment du jeu où, donc, comme je disais, on a un nombre de rewind qui est limité. Et il y a une espèce de grand puzzle à un moment vers le, je sais pas, milieu, je dirais, du jeu, un petit peu après. Puzzle dans le sens acrobatique où il va y avoir, ça mélange à la fois donc tout un parcours à faire, monter, descendre et tout, et diriger des rayons de lumière en fait vers un mur qui, je crois qu'on chope, c'est juste là qu'on chope la première épée, je crois, peut-être l'épée niveau 2. Et bon, moi j'étais tombé pas mal de fois et tout, et vraiment, je termine le puzzle qui ouvre la porte qui est tout en bas. Et je n'ai plus de rewind, en fait, je suis arrivé au bout de ma réserve. Ce qui veut dire que si je tombe, c'est game over, et potentiellement, alors j'en ai aucune idée, peut-être que j'allais devoir tout me retaper, tu vois. Alors, ça aurait été dur, mais je sais pas. Et là, je me mets à vraiment stresser, tu vois, je commence à faire vraiment attention, je redescends, je réapprends des passages où je suis déjà mort, parce que j'étais déjà redescendu une ou deux fois. Et ça, c'est un truc qui m'était pas arrivé une seule fois de tout le jeu. Autant le rewind, la première fois que je m'en sers, je me dis bon, c'est quand même sympa, c'est une bonne idée, tu vois, le rewind, il y a un côté confortable, tu dis bon, je suis mort, mais hop, j'ai rewind et ça se passe bien. Là, autant, tu vois, j'étais vraiment plus serein du tout, mais j'étais quand même vraiment émotionnellement engagé, tu vois, dans le jeu, c'est quand même un moment dont je me souviens, tu vois, je suis en train de le raconter là, c'était un moment très fort dans le jeu, et je pense qu'ils s'en sont rendus compte de ça, de cette peur de mourir, et d'ailleurs, enfin, pour la petite parenthèse, c'est un truc sur lequel capitalisera Dark Souls, ou un truc comme Darkest Dungeon, tu vois, typiquement, les mecs de Darkest Dungeon, ils ont dit, bah là, le fait de tout perdre, ça, oui, c'est ça, en fait, c'est cette émotion-là qu'on veut créer. Mais bref, à la fin de Prince of Persia, on t'enlève la dague, t'as plus le rewind, et c'est plus la même dynamique. Et t'as aussi... Après, il compense quand même. T'as l'épée, la maxi-épée niveau 3, 4, je sais pas trop quoi. Et comme tu l'avais déjà mentionné, tu tues les ennemis directement, parce que t'as plus la dague de toute façon, donc tu peux plus les achever. Mais là, tu les tues en 2-3 coups. Et ça donne aussi un sentiment de puissance. Donc en fait, t'as à la fois, t'es hyper puissant pendant les combats que tu vas abréger super vite. Un passage qui peut faire penser à Half-Life 2, qui sortira plus tard, mais bref, je vais pas rentrer dans le détail. Mais t'as un vrai sentiment de puissance. Et à côté de ça, dans les phases de plateforme, t'es vachement plus vulnérable. Donc je trouve quand même que c'était une fin qui... Voilà, qui est plus émotionnellement engageante, tout simplement.
Bah, tu sens que, de toute façon, sur la totalité du jeu, il y a quand même une bonne idée, tu vois, de rythme et de pacing. Tu sens quand même qu'ils ont une histoire à raconter, qu'ils font évoluer le truc, et que, bah oui, notre personnage, voilà, il va gagner en puissance, il va gagner également... en fait, c'est ça, à la fin, t'as ce côté un peu glass cannon, tu sais, canon de verre, comme on dit, où t'es effectivement très puissant, mais par contre, si tu meurs, voilà, c'est instantané, t'as pas le droit à l'erreur. Donc ça donne, c'est ce qui permet, en fait, d'éviter justement la lassitude, parce que bon, bah à côté, comme on l'a déjà dit, il y a assez peu d'ennemis et les combats se ressemblent beaucoup. Donc ça apporte un petit truc en plus, ouais.
Non, mais je trouve que ça, pour moi, ça démontre encore une fois cette espèce de maîtrise de leur propre formule, de se dire, bah voilà, ils ont eu des idées, mais en même temps, ils les ont exploitées, et après, ils les retirent pour donner une autre saveur au jeu. Ça montre quand même que même si c'était une jeune équipe, bah c'était des gens qui avaient quand même une vision, vraiment des vraies réflexions de game designer dans le sens moderne du terme, c'est qu'est-ce que je peux te faire ressentir avec mes mécaniques de jeu. Et ça, je trouve que c'est effectivement quand même à saluer. Tu as bien fait de le noter, Maxime. Très bien. Merci, est-ce qu'on a d'autres choses à dire, si ce n'est que c'est un jeu qui sera tellement classique que... Il fera beaucoup d'enfants, en fait, hein. Ces différents piliers dont on a parlé, le combat, la plateforme, c'est des choses qui vont devenir vraiment prédominantes dans le triple A. Nous, on pense à quelques héritiers vraiment directs. D'un côté, on pense déjà à Uncharted, sur le côté vraiment formule, cette espèce de mélange entre combat, acrobatie, histoire, ça c'est vraiment ce que fera Uncharted, et même encore aujourd'hui, je pense que le 4, c'est vrai que si on doit vraiment prendre du recul, et ce serait quoi un Prince of Persia d'aujourd'hui, pour nous, ça ressemblerait à un jeu Uncharted comme ça, alors avec beaucoup plus de mise en scène et tout, hein. C'est vrai que là, Naughty Dog, ils arrivent à créer peut-être plus de diversité dans les combats et dans les situation avec un côté spectacle, mais qui est pas simplement spectacle de l'animation, qui est spectacle de ce qui va se passer autour, des maisons qui s'écroulent, des machins et tout ça, ils savent très très bien.
Des hélicoptères qui te canardent,
voilà, des trains, des choses comme ça.
Mais donc t'as ça, t'as aussi la dynamique des personnages, parce que même Uncharted, en fait, tu vois, en y repensant, les relations que tu vas pouvoir avoir avec Sully ou avec les différents autres persos, t'as ce côté un petit peu humour, tu vois, qu'on devinait déjà dans Prince of Persia, toujours un peu, encore une fois, un héritage de ces films, façon La Momie, qui se prennent pas trop au sérieux, qui essayent d'avoir comme ça des petites relations un peu comiques entre les personnages, et qui installent une petite, ce qu'on appelle les buddy movies, tu vois, ils installent une petite dynamique comme ça entre les différents protagonistes, et tu sens bien que c'est vrai, enfin, quand on rejoint un Prince of Persia aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, je me suis dit tout de suite, putain, mais en fait, oui, Uncharted, c'est une évolution de ça, tu vois, c'est une nouvelle itération, alors... mieux maîtrisé, plus avancé sur la plupart des aspects, mais on sent que les deux partagent comme ça une envie de nous faire vivre une grande aventure très cinématographique, très spectaculaire.
Ouais. Après, il y a le système de combat aussi, vraiment ce combat contextuel, hein. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que, tu sais, Max, quand tu restais appuyé et que tu bougeais pas, la caméra, en fait, elle bouge toute seule parce que, tu sais, c'est elle qui choisit un peu l'ennemi auquel tu vas combattre. Elle se dit, ah bah maintenant c'est celui-là, maintenant c'est celui-ci. Et du coup, elle oriente elle-même la caméra. Donc, ces combats contextuels qui. Alors, il y avait déjà aussi Spider-Man de
Les ludophiles se souviendront de Spider-Man 2002.
effectivement, qu'il y avait déjà ce système de combat contextuel et qui par la suite du coup se retrouvera déjà dans les jeux Arkham. C'est vrai que les Batman Arkham feront un peu ce système de combat très contextuel, même si là on entrera vraiment beaucoup plus dans quelque chose d'encore plus dynamique où vraiment on virevolte dans tous les côtés. Mais il y a ce côté, je trouve, spectaculaire et facile à faire, c'est plus du rythme qu'on retrouvera. Et puis il y a une autre série qui découlera vraiment de Prince of Persia, c'est Assassin's Creed, puisque Patrice Désilets, je crois que même Assassin's Creed, enfin je sais qu'Assassin's Assassin's Creed, à la base, ça devait être un Prince of Persia. On devait jouer justement un assassin qui protégeait le prince de Perse. Hein. Je crois que c'était ça le
c'était
pitch de base.
C'était un spin-off, ouais. Pendant qu'il développait la trilogie, Patrice Désilets développait un spin-off, ouais.
Ouais, et du coup, bah, c'est ça qui deviendra Assassin's Creed, hein, donc les capuches blanches et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que bah, Prince of Persia, c'est une saga qui va prendre beaucoup de place au début des années 2000. Il va avoir toutes ces voilà, la trilogie. Il va en avoir encore un autre, l'espèce de reboot, où vraiment là, le temps sera une composante très importante. Il y aura plus de morts, plus de game over. Hein, le jeu est connu un petit peu pour ça. Il y aura encore un autre jeu qui sera plus très beaucoup moins aimé. Et voilà, la licence va un peu s'éroder, alors que Assassin's Creed, à l'inverse, ça va devenir vraiment la nouvelle figure d'Ubisoft, avec le 1 qui est sorti en 2007, et puis après avec le 2, et puis...
Et les 18 épisodes depuis...
Voilà, les 28 000 épisodes qui sortiront par la suite. Mais c'est vrai que je trouve que, tu vois, en refaisant les combats là, de Prince of Persia, j'ai vraiment eu ce ressenti que j'avais sur Assassin's Creed, c'est de vraiment attendre les ennemis qui t'encerclent comme ça, et de jouer sur les contres, et de les contourner un petit peu dans le dos. Le parcours aussi, qui était déjà là dans Prince of Persia, là, cette fois, ça va être du parcours en monde ouvert, donc ce sera encore plus automatisé, mais tu gagneras ce côté, bah, je peux aller dans plein d'endroits différents, ce sera pas aussi calé que dans Prince of Persia, même si il y aura des séquences totalement en hommage là-dessus dans le deuxième épisode.
Oui, alors je crois que c'était Max qui en parlait. Alors je ne sais plus si dans Brotherhood ou dans Révélation, où il y a des espèces de petits donjons optionnels qui sont vraiment des niveaux de Prince of Persia, quoi.
Oui, et t'as le même effet de caméra au début qui fait un petit travelling pour te montrer le parcours que tu devras emprunter. Enfin, vraiment, quand j'ai joué la Prince of Persia, je me suis dit, ça m'a rappelé Brotherhood, en fait.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, hein, de cette histoire de mouvement de caméra. On en avait pas mal parlé dans la préparation, mais on l'a pas forcément dit dans l'épisode. C'est vrai que ça fait partie aussi des petites choses qui font que le jeu est assez répétitif, parce que dès que tu rentres dans une arène, tu vas avoir ce travelling de caméra qui te montre l'intégralité de la salle. Et en plus de ça, quand tu vas sauvegarder et que tu te retrouves dans l'espèce de puits de sable, tu vas avoir un flash forward, pas un flashback, du coup, un flash forward de ce qui t'attend. Et donc, c'est une occasion de montrer les actions que tu peux faire et de te montrer également les dangers auxquels tu vas faire face. Ça va donner, j'imagine, envie de continuer le jeu. Mais mis bout à bout, comme c'est systématique, ça devient un petit peu redondant et au bout d'un moment, t'es là, bon. Aujourd'hui, je trouve que ça fait partie des choses qui tu vois, ont pas mal vieilli, c'est un peu plus lourd que ce qu'on avait à l'époque.
Oui, je trouve que ça hache plus le rythme du jeu, que ça te donne envie de continuer, tu vois, c'est vrai que sauvegarder et te dire « Hey, voilà ce que tu vas faire après la sauvegarde », t'es un peu le genre là, mais ne me le montre pas, je peux le découvrir par moi-même. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui a un petit peu vieilli et voilà, qui est un peu maladroit, même si, encore une fois, l'intention, apparemment, c'était vraiment de montrer ce qu'on va pouvoir faire, justement, sur ces séquences. Ouais. Mais bon, moi, j'avoue que là, en y rejouant aujourd'hui, j'étais en mode, genre, ok, c'est le moment où je regarde mon portable, en fait, et je m'en bats.
Ou tu réalises pas forcément que c'est un move que tu connais pas, parce qu'un des premiers flash-forward, ça va être un moment où il fait un bloc, et il contre avec la dague, ensuite, il la plante dans l'ennemi, et un autre, ça va être le fameux coup sauté, là, depuis le mur. Mais c'est vrai que, comme je dis, moi, je suis complètement passer à côté de ça, je sais pas, j'ai pas tilté, donc je trouve que l'implémentation est peut-être pas, effectivement, elle est pas au top.
Ouais. Ouais, je me demandais, moi, tu vois, si c'est pas quelque chose qu'on a plus, en fait, tu vois, une espèce de langage, d'espèce de langage tacite du jeu vidéo qui en 2004 était compréhensible, parce que moi je me souviens qu'effectivement je me disais, ah, c'est malin, je vais pouvoir faire ça, tu vois, quand je voyais la petite cinématique, je vais pouvoir faire ça, et donc j'essayais de le refaire en me disant, bah tiens, est-ce que je peux essayer de faire ce geste là moi aussi, qui aujourd'hui peut-être nous parle moins parce qu'on n'est pas habitué à. On n'a pas les mêmes codes, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est. On voit bien, tu vois, qu'il y a quand même deux générations d'écart entre les deux, quoi.
Puis même, tu vois, dans l'implémentation des tutos, tu sais, où t'es en plein milieu de l'action, il te dit et là il faut appuyer sur X pour faire des trucs comme ça, ou tu sais, en plus c'est deux petites phrases, il y a pas une interface. Alors c'est à la fois quand même une qualité, on l'a pas dit, mais c'est vrai que le jeu se débrouille vachement bien pour garder tous ces éléments diégétiques. La sauvegarde, tu vois, c'est un puits de sable, il y a le rewind, c'est avec les sables du temps, enfin toutes les mécaniques du jeu sont vachement diégétiques, tu vois, il y a pas trop de surcouche d'interface. C'est vrai que ça viendra un peu plus tard par la suite, et peut-être d'ailleurs que c'est ça finalement, c'est que les jeux par la suite nous ont vraiment éduqués à les comprendre, à les apprendre via l'interface. Et quand aujourd'hui on garde sur des trucs un peu diégétiques comme ça, on imprime peut-être un peu moins bien les nouvelles mécaniques, parce que tu vois le côté genre tu peux sauter sur, grimper sur un mur et taper un ennemi, je pense que le jeu à un moment il s'arrête pour te le dire, voilà, faut faire ça, tu vois, t'as la combinaison de touches. Mais peut-être aujourd'hui on y fait moins attention parce que
t'aurais
c'est
une
moins
séquence de
mis
jeu
en forme
fait, dans laquelle ça, tu pourrais le faire toi-même. en fait, aujourd'hui.
Il faut le faire trois fois pour y arriver, tu vois. Mmh. T'as un ennemi qui va te bloquer. Je pense au tuto, par exemple, de Ghost of Tsushima, où vraiment, t'as le vieux papy qui te dit « Bon, alors maintenant, tu dois faire trois fois ce coup pour bien l'apprendre à le faire, tu vois. » Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément...
Ou alors, après 20 ennemis, à chaque fois, tu chopes un peu de monnaie, tu peux acheter les compétences, tu vois.
Voilà, voilà.
Ah oui, parce qu'il y aurait trois arbres de talent.
De compétences, bien sûr.
Il y aurait la compétence épée, dague, saut.
Et voilà, exactement. Non, mais oui, ce serait ça. Et ben voilà, écoutez, voilà, Ubisoft, donnez-nous...
donnez-nous le remake.
On peut. Ben voilà, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. On sait quoi faire, on sait faire un jeu sur Ubisoft. Je pense qu'eux, ils savent aussi. On voulait quand même revenir aussi sur ces éléments peut-être un peu kitschouilles, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup amusé quand j'ai relancé le jeu. Le fameux ralenti du prince à chaque fois, qui rengaine son épée et sa dague après chaque fucking combat. Et ça, vraiment... bon, bah déjà, au bout de 10 minutes, j'en avais vraiment à l'heure. J'en pouvais plus. Et franchement, c'est le combat, peu importe qu'il soit long ou qu'il soit court, à chaque fois, il y a le ralenti, la petite mèche au vent. En plus, il y a toujours un espèce de vent comme ça qui circule dans le jeu, qui va faire pirevolter 2-3 petits trucs, et il rengaine ses épées dans un ralenti.
Avec la voix qui, du coup, s'arrête, et que t'as le fade-out de la musique et tout. Voilà. Moi, le moment où vraiment, je me suis dit, ah ouais, ils abusent, c'est, je crois que c'est quand on va vers l'animalerie, enfin, l'espèce de zoo, moment, et vraiment, t'es en train de descendre des falaises vers une cascade quand tu vas aller dans les grottes, et à un moment, il y a genre deux scarabées ou deux oiseaux, donc tu les tapes, ça prend 20 secondes, et après, t'as 40 secondes de ralenti, enfin, tu vois, j'exagère à peine, mais c'est vraiment genre, tu viens de tuer deux pauvres ennemis où il fallait juste un petit coup d'épée, et là, ralenti.
En fait, c'est ça, l'idée, elle est pas mauvaise, mais c'est le fait que ce soit constant qui, du coup, fait que bah, ça perd un petit peu, justement, de son effet, enfin, c'est littéralement, on commence le jeu, je crois qu'il y a un combat dès le début, quasiment, donc ouais, c'est-à-dire ça dès le début, et on va se taper ça à chaque fois jusqu'à la fin. Donc non, ça perd complètement d'originalité. Et on avait cité, enfin je trouvais que c'était intéressant quand même, on avait cité deux autres jeux qui ont un peu cette mécanique mais qui l'implémentent de façon différente. Il y avait Hyper Light Drifter où parfois le perso, pareil, il a un petit effet, il fait tournoyer l'épée, il la plante dans le sol, il claque une petite pause pendant 2 secondes, mais c'est après les combats importants, c'est-à-dire qu'on n'aura pas ça pendant tout le jeu, ça va nous surprendre quand ça va arriver, et c'est vrai que ça arrive à un moment, on se dit j'ai réussi ce combat,
ouais,
c'est bon,
souffres,
la pression redescend au moment où il le fait, c'est une vraie récompense en fait pour le coup. Et il y avait aussi Zelda Twilight Princess où en fait c'est à la fin d'un combat, c'est à toi au moment où t'appuies sur le bouton rengainer l'épée. Il fait l'animation à la fin du combat, donc c'est toi qui choisis à la fin de quel combat tu vas faire la petite animation, donc ça aussi c'est intéressant.
Voilà, c'est vrai que c'est vraiment systématique et c'est un peu fatigant. Il y a aussi pendant le tuto des choses qui te choquent aujourd'hui, tu sais, vraiment il y a un moment, il y a un changement de caméra alors qu'on est en train de courir sur un mur.
Ouais.
Et tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Enfin, je suis dans une direction, mais laissez-moi finir l'action sur le même angle. Parce que tu sais, t'es là, t'es vraiment, vous ne respectez rien.
C'est un cut en plus. C'est pas genre un travelling ou quoi, la caméra, tout de suite, tu fais, non, la caméra, genre, boum, t'es à 90 degrés, tu fais, c'est pas le moment stressé, sinon tu vas tomber, quoi. Mais dès le début, il y a un truc qui m'a vachement choqué. Je crois pas que ça arrive encore dans le jeu, et donc c'est d'autant plus choquant que ça arrive au début, mais le premier saut en longueur que tu dois faire, et comme je l'avais dit, tu dois timer le bouton saut au moment où tu vas arriver avant le vide, il te claque un cut, la caméra qui est en face de toi, du coup.
Oui, et en contre-plongée en plus.
Et je suis tombé.
Ouais.
Parce qu'en plus,
c'est les premiers sauts quand t'es en train de faire l'invasion de la ville, du Maharaja.
Un des premiers grands sauts, t'as une caméra qui est face à toi. Et en plus de ça, le jeu, il ne gère pas le fait que t'as gardé le joystick enfoncé. Tu fais demi-tour, en fait. Ça, c'est un truc un peu old school aussi qu'on changerait aujourd'hui. Mais il y a des moments, ça arrive. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, il y a la fameuse scène avant qu'on couche en rêve avec Farah. Il y a le moment où on est filmé de face, en fait. Quand on rentre dans les portes, en fait, il y a toutes les successions de portes. Et quand tu rentres, en fait, boum, t'as un cut où la caméra de face, du coup tu fais demi-tour parce que tu avais gardé
le direction.
Mais bon.
Non, mais c'est vrai que c'est assez amusant de jouer à des jeux comme ça, mais c'était vraiment des trucs qui tranchent littéralement avec des standards en fait qui sont actuels. Dit non, ça aujourd'hui c'est mort,
plus,
tu vois. Il n'y a plus personne qui fait ça, c'est sûr et certain. Les changements de caméra comme ça, c'est banni. Mais voilà, c'est vrai que c'était assez amusant, mais vraiment les ralentis pour moi, ça restera un des trucs que je n'oublierai pas. Ce côté vraiment très kitsch en fait.
C'est
vraiment, tu sais, c'est vraiment ça stimule l'ado de 13 ans qui était là, genre waouh, trop stylé, regarde son
mais en plus, 90% du moment, c'est juste lui qui reste debout. En fait, il y a juste les deux mains qui bougent et lui, il est juste stoïque.
Il a une vieille expression, ça ne l'aide pas. À l'époque, bon, voilà, les visuels nous paraissaient pas un peu datés, mais là, quand tu y rejoues aujourd'hui, tu te dis, très beau.
Disons que ça tombe un peu à plat.
C'est pas le truc incroyable que j'avais envie de faire.
C'est un détail qui devrait pas prendre autant de place, mais chaque année, je pense que c'est un détail qui devient de plus en plus pesant, en fait.
Bah, c'est comme les rondades, c'est ces trucs, tu vois, qui étaient là pour le spectacle, qui étaient un peu acrobatiques et qu'aujourd'hui tu dis,
les petits moulinets, les petits bidules, tu vois, c'est inutile.
Est-ce qu'on peut accélérer, est-ce qu'on peut les zapper, tu vois, tu te dis, bon, voilà, on ferait des choses comme
ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des mouvements, tu vois, c'est, des fois, t'as des ralentis, bon, par exemple, là, sur Red Dead, t'as des moments où tu vas lui mettre un bon headshot à 15 km, tu vas avoir le droit à ce ralenti, mais tu vas pas l'avoir sur tous les personnages, un tous les 20 ou tous les 30 ennemis, donc ça permet de mieux diluer ça, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on a appris, en fait, dans le jeu vidéo aujourd'hui, à comprendre l'impact que ça a, à quoi ça sert, et qu'effectivement, comme le disait Max, ça soit plus des moments de récompense des moments vraiment clés, ou éventuellement des petits moments de tension ou d'action, mais pas un truc systématique, parce que si un truc se fait tout le temps, bah, ça a plus son effet, en fait. La rareté de la chose, vous voyez, ça, c'est ce qui donne. Alors, j'imagine que tu vas y avoir une citation du rap qui nous permet de faire un truc là-dessus, mais moi, je ne l'ai pas. Donc,
j'ai rien qui me vient là. Ouais, écoute, je suis désolé. Voilà.
Non, mais c'est pour la grille des bingos des gens, moi. Tu vois,
je sais pas si le sable des temps est très référencé dans le rap français. Ce n'est pas un classique encore du rap français. Aïe, aïe. Écoute, on verra. Tout ça pour dire, en tout cas, bon, on l'a un petit peu dit, c'est vrai que c'est un jeu qui va vraiment rentrer dans ce. Être le symbole vraiment d'une nouvelle ère pour Ubisoft, vraiment les engager dans une nouvelle stratégie, la stratégie de la domination du monde, tout simplement. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Minus ? C'est bien dominer le monde, tout simplement. Et vraiment, Prince of Persia faisait partie de ce plan-là. Mais licence qui malgré tout, passera un petit peu en retrait face à d'autres grands noms d'Ubisoft, et Assassin's Creed, je pense que c'est le meilleur exemple. Mais il y a aussi même Splinter Cell, on parlait un peu de Splinter Cell, et d'ailleurs peut-être qu'un jour on fera un épisode sur un des épisodes de Splinter Cell, c'est possible. Mais c'est vrai que voilà, là aussi c'est une saga qui a pris un petit peu, qui est passée un peu au second plan par rapport à des Far Cry, des choses comme ça, qui voilà, il y a ce renouvellement, mais... Déjà, je trouve qu'on comprend bien la stratégie d'Ubisoft qui était, on se place sur l'échiquier, on a des jeux avec des recettes un petit peu différentes, mais qui partagent des points communs, et voilà, c'est ça le jeu vidéo qu'on fait. Et vraiment, moi, à l'époque, j'étais fanat d'Ubisoft. Enfin, j'adorais leurs jeux, je trouvais que c'était trop stylé, en fait, tout ce qu'ils faisaient.
Moi, la trilogie des Sables, vraiment, donc avec Warrior Within et Les Deux Royaumes, tu vois, c'est trois jeux que j'aime beaucoup, je tiens assez en haute estime dans mon cœur, et même, je suis pas sûr de vouloir y rejouer, parce que bon, là, on rejoint Sand of Time, ça a un peu écorché le souvenir, mais à l'époque c'est vraiment des jeux qui étaient, c'était les blockbusters de ces années-là en fait, hein. Et c'est rigolo de voir que justement Splinter Cell qui a été créé à la même époque, ça fait partie de ces licences qui aujourd'hui sont un peu en sous-marin. Alors bon, a priori il y aurait un jeu Splinter Cell qui devrait finir par arriver, je sais pas s'ils s'en sortent, mais voilà, Prince of Persia en fait, dès le début il y avait cette idée, il y a eu les épisodes sur GBA, il y avait les épisodes sur téléphone, parce qu'à l'époque il y avait des jeux mobiles, un peu plus tard sur Xbox 360 il y a eu Prince of Persia Classic qui était en fait Prince of Persia vraiment avec la caméra 2D, mais avec les graphismes, avec les visuels du prince tel qu'on le connaît dans Sands of Time. Il y a eu évidemment l'épisode Prince of Persia 2008, Les Sables Oubliés qui était sorti en même temps que le film. Enfin, tu sentais qu'en gros, ils étaient déjà dans leur logique de vouloir faire comme ça du mass media en fait, aller un peu au-delà du jeu.
Ils pédalaient un peu dans le sable en fait.
Ok, je te laisse l'assumer.
Commençait déjà un petit peu. Non, mais et puis voilà, aujourd'hui on en est qu'il va avoir un remake. Alors on peut le dire aux gens, c'est vrai qu'on avait timé la sortie de cet épisode normalement qui devait être calé avec le remake, mais bon là avec le Covid, ça dépend de votre école, il a été un petit peu décalé le jeu.
Indéfiniment, on sait pas quand, il n'y a pas de date.
Donc il a été. Il est peut-être. Le truc, c'est que moi, c'est vrai que j'avais pas regardé avant l'épisode, j'avais même pas regardé les trailers. Je me disais, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce remake ? Et là, des trailers qu'on a vus, j'ai l'impression que c'est vraiment un remake graphique, le truc vraiment nostalgique. On en discutait pendant la préparation, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec Crash Bandicoot, des choses comme ça. Genre, vraiment, on conserve l'architecture ludique du jeu de base et on va juste augmenter les graphismes pour faire un truc un peu moderne. Mais a priori, c'est quand même vraiment la fibre nostalgique qui va être titillée et pas une réinvention de Prince of Persia, quoi.
Non, et du coup, bon, je sais pas à quel point c'est pertinent en fait comme projet, parce que même si on modernise le combat, les caméras et tout, bon, comme dit, 80% du jeu ça restera globalement le même, hein, donc bon.
Ouais, et puis surtout, il est encore jouable. C'est-à-dire que moi, Prince of Persia, là, je l'ai fait sur Uplay parce qu'il avait été offert pour les 15 ou 20 ans de Ubisoft. Enfin, il y a quelques années, il avait été offert sur Uplay. Et il est encore parfaitement jouable. Donc, alors c'est vrai qu'il est en 4 tiers. Ça fait bizarre de jouer en 4 tiers.
Ça a son charme. Moi, j'aime bien.
Ouais. Ouais, moi, ça me dérange pas plus que ça.
Mais c'était juste, j'avais plus l'habitude, tu vois. C'était le... Oui. Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça, tu vois. C'est vraiment le côté genre voyage dans le temps. Donc, forcément, là, on pourrait passer sur du 16:9 avec de la HD et tout. Mais en fait, le trailer qu'ils ont montré de gameplay il y a quelques mois avant qu'ils décident de mettre le jeu entre parenthèses, la plupart des gens avaient réagi en disant, mais en fait, c'est pas très joli votre truc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus un gap graphique qui était énorme. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, peut-être qu'ils ont voulu simplement surfer sur le côté un peu nostalgie en se disant, bon, bah, vous pouvez refaire le jeu aujourd'hui un peu facile. Alors que justement, ce qu'on a voulu voir un petit peu avec cet épisode, c'est que comme les différents piliers du jeu ont été repris par tout un tas d'autres jeux qui sont allés beaucoup plus loin, hein, que ce soit les Arkham, les Uncharted, les Tomb Raider, etc., aujourd'hui, un Prince of Persia tel qu'on l'avait dans cette époque-là, en 2004, pour que ça soit pertinent aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait que ça soit un truc grand spectacle avec les moyens d'un Naughty Dog, en fait, pour que ça soit vraiment, je pense, quelque chose qui revienne comme ça sur le devant de la scène.
Ah, comme on l'a dit, les Uncharted, j'ai fait les 1, 2 et 4 il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'un an, et oui, comme dit, c'est littéralement les mêmes piliers, c'est vraiment la même structure. Juste en mieux rythmé, hein, même si Uncharted 1 aussi, tu vois, il a pris un peu du plomb dans l'aile et j'ai joué à la version remaster. Mais comme dit, en fait, je trouve ça limite plus intéressant de jouer à l'original, mais d'un point de vue un peu pour constater ce qu'a vieilli, justement. Parce que autant le remaster, ça va juste être un jeu qui est un peu vieux, globalement, qui va peut-être avoir des mécaniques un peu modernes, peut-être que le rewind, il sera bien réactif et tout, bien fluide, mais finalement, le jeu en lui-même, bon, bah, c'est un peu daté, hein, finalement, comme on l'a dit, il a fait beaucoup d'enfants, ce jeu, on a pu jouer à plein de jeux qu'on a été inspirés, alors que jouer à l'original aujourd'hui, ça aura plus mal vieilli, et comme on l'a dit, il y a des choses qui vont plus, mais c'est intéressant de les constater, justement, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on ferait plus ou différemment aujourd'hui ? Donc je pense qu'on peut en tirer un autre plaisir, en fait, en jouant à l'original.
Tu as pris beaucoup de plaisir, toi, Maxime, à faire en
J'ai détesté, en fait, vraiment, non, mais pour le dire, alors, après, moi, je suis pas un fan des plateformes 3D,
pas trop aimé,
globalement, donc déjà, de base, je suis pas un fan du jeu, et effectivement, il y avait plein de trucs vieillots et tout, moi, en vrai, j'ai pas du tout aimé y jouer, mais après, je constate, tu vois, en prenant du recul et tout, je me dis, oui, il a quand même défini plein de trucs, il y a plein de choses qui ont bien vieilli, qui, à l'époque, étaient assez en avant, qui étaient assez précurseurs, mais, donc, oui, j'ai du respect, en vrai, pour le jeu, après, moi, j'ai pas aimé.
On met du respect sur son nom.
Exactement.
moi j'en avais aussi quand même de très bons souvenirs. C'était mon père qui jouait devant moi sur PlayStation 2. C'est vrai que c'était un beau souvenir. Là, aujourd'hui, d'y jouer aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être moins les choses auxquelles j'ai envie de faire. Mais c'était un bon exercice. C'était vraiment cool, ouais, comme tu le dis, de voir... à quel point c'est les prémices de plein de choses du AAA et de dire que voilà, encore une fois, les Assassin's Creed, les Arkham, les machins, ça vient pas de nulle part. Et pour moi, c'est une époque que j'aime bien d'Ubisoft parce que c'est quand même une époque où ils étaient leaders créatifs, je trouve, alors qu'ils l'ont. Aujourd'hui, ils le sont peut-être un petit peu moins, je trouve, qu'ils sont un petit peu dans la redite. Mais vraiment, à cette époque-là, tu sens qu'ils avaient envie ils avaient la dalle de s'imposer, de vraiment faire des jeux. Enfin, tu vois, Splinter Cell aussi, il y avait une envie de faire vraiment un concurrent à Metal Gear, faire quelque chose qui soit vraiment infiltration avec la lumière et tout. Donc ils étaient c'était vraiment un bouillon créatif Ubisoft Montréal, c'était un studio important,
ça,
quoi.
Ça l'était, mais voilà, comme dit, ils étaient déjà dans une stratégie de toute façon de licence, c'est-à-dire que oui, Splinter Cell 2 et 3 ils étaient très bien, tu vois, mais au bout d'un moment, voilà, à partir du 4 on a commencé un petit peu à se dire bon, ça suffit, et finalement ils étaient aussi créatifs avec Assassin's Creed 1 et le 2 aussi qui étaient bien maîtrisés.
Mais
et aussi Far Cry, et ensuite il y a eu 2, 3, mais c'est ça, c'est que ça a toujours été la même stratégie, en fait. C'est juste que les jeux ont pris plus d'ampleur, ils ont continué à créer, mais c'est vrai que là, ils ont eu un petit peu de mal à créer de nouvelles licences, à créer de nouvelles choses. Ouais.
Bah, c'est le début, comme ça, d'une espèce de vague de ces jeux du début des années 2000. Ça a été assez vite remplacé par ceux des années 2010, donc avec les Assassin's Creed et autres. Peut-être qu'on va en avoir des nouveaux dans les années à venir. Bon, a priori, Assassin's Creed a encore quelques beaux jours devant eux. Il leur reste quelques pays à faire et quelques époques, normalement. Mais c'est vrai que les autres, on l'a vu, hein, que ce soit les Ghost Recon, on est arrivé un peu à une espèce de lassitude au bout d'un moment, donc cette idée de développer en licence, ça a pris naissance en fait à cette époque-là, quand justement Prince of Persia et Splinter Cell sont arrivés sur le devant de la scène.
Et ça leur réussit très bien, hein, d'un point de vue purement de résultats financiers. On va pas faire les gens c'est une mauvaise idée, Ubisoft, c'est pas bien. Faut jamais l'oublier.
Notre regard sur l'entreprise et ce qu'on apprécie créativement, c'est pas la même chose que ce qui se passe financièrement. On comprend bien évidemment. Enfin, on disait c'était 650 Ubisoft Montréal. Là aujourd'hui, c'est 3500.
Sachant qu'en tout, Ubisoft dans le monde, c'est quasiment 19 000 personnes maintenant. Donc, c'est un monstre aujourd'hui, Ubisoft. Ubisoft, hein, c'est plus gros.
On les embrasse toutes et tous, évidemment. Voilà, coucou à tout le monde. Je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve logiquement dans 2 semaines. C'est vrai que cet épisode, on avait eu un petit décalage, mais pour le prochain, dans 2 semaines, cette fois-ci, vous pourrez chausser vos meilleurs éperons, vos petits chapeaux comme ça, de cow-boy. Préparez-vous à un grand épisode. Ça s'annonce déjà incroyable, vraiment, ce prochain épisode. Ça va vraiment être un grand moment de podcast, je le sens. Vous pouvez nous rejoindre sur Patreon d'ici là. Je pense que c'est une bonne idée.
Faites-le maintenant. Ouais.
Voilà, faites-le avant.
On va voir les gens, tu sais, qui sont déjà en train de dégouliner sur le Discord. Mais non, on pense à vous les gens du channel 55.
Je rappelle, j'ai pas du tout aimé Prince of Persia Sands of Time, mais j'en ai dit globalement. Regardez, je le pense sincèrement. Tu vois.
Mais qui rassure, c'est ça l'objectivité. Et oui.
Ouais.
C'est
ça l'objectivité.
Bon, ça va que c'est bientôt la fin de l'épisode. Qui nous écoute encore? Levez la main dans le Discord.
Après, il a raison. L'objectivité, c'est de dire du bien des jeux que les gens aiment bien. Voilà, c'est ça l'objectivité.
Exact. Oh là là, ça clash. Allez, il est temps de finir. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. On remercie encore une fois Sœur d'édition. Ah, attention, yes, là, la bonne prononciation.
Bingo.
Le bingo est rempli. Le carnet de bord de Jordan Mechner, c'est disponible actuellement sur le site. Vous pouvez aller sur le site de Third Edition. Vous trouverez ça. Et peut-être un livre sur la saga Prince of Persia, on ne sait pas. Voilà, on s'est lancé comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous faire confiance? Je pense que vous pouvez nous faire confiance. On se retrouve dans 2 semaines. On vous embrasse. Salut.
Ciao. Salut.